Salut mec, salut meuf, j'espère que tu vas bien. Petit bilan un peu ghetto en facecam avant que le podcast commence. J'ai pas de micro, mais je fais ça rapidement parce que j'avais quelques petites précisions à te partager avant que le podcast commence. Déjà, la première et la moindre des choses, c'est que je tiens à remercier chaleureusement Loan d'avoir répondu présent à mon invitation et donc de me permettre de te partager cet échange à toi, auditeur du podcast, et tu verras, c'est super intéressant. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que je viens de lancer, ou plutôt de relancer ma newsletter, Le Conseil du Dimanche, on garde le même nom, un email tous les dimanches à 9h où je te partage mes dernières découvertes dans le monde de l'entrepreneuriat, du copywriting et de la vente. Donc si le business en ligne et la création de contenu, c'est des domaines qui t'intéressent, ça risque fortement de te parler. Tu peux rejoindre la newsletter gratuitement avec le premier lien en description. Et sur ce, moi je te laisse avec le podcast avec Loan et je te fais plein de bisous aussi. Ok, bah là normalement c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi?
C'est bon aussi pour moi.
Nickel. Bah déjà Loan, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci de m'avoir invité.
Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Bah déjà, je vais commencer par la base sur tous les podcasts. Si tu as déjà fait des podcasts, normalement, tu as déjà demandé, posé cette question.
Ouais.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore?
Lohan, 19 ans, youtubeur, go muscu, boxeur. Et j'aime bien le street workout. Je suis pas, j'allais dire, je suis fort en street workout. Pas du tout, je suis pas fort, mais j'ai beaucoup pratiqué à une époque.
Ok, bah putain,
J'ai deux, trois figures.
ça fait pas mal de casquettes. Bah, ça fait pas mal de casquettes. Et est-ce que tu peux préciser aussi un petit peu ce que tu fais sur YouTube, genre le type de vidéo que tu fais? Bon, moi je suis tes vidéos, mais
Ouais,
il y
c'est
a.
du dev perso. Dev perso Wojak à l'américaine, à la Hamza pour les connaisseurs. C'est voilà, tu sais, avec le Doomer, le Giga Chad, les machins, tout ça.
Ok, ça marche. Bah d'ailleurs, avant de parler de tout ce qui est dev perso, etc.,
Ouais.
au niveau de ton parcours sportif, c'est quelque chose qui, dans tes vidéos, tu vois, t'en parles souvent
Ouais.
du côté go muscu, tout ça, parce que ça fait partie, tu vois, de l'identité dev perso. Comment, est-ce que tu peux un peu contextualiser, genre, ce que t'as fait du sport, à partir de quel âge, quel sport t'as fait avant d'en arriver, je crois que tu fais de la taille et de la muscu actuellement.
C'est ça.
Ouais.
Alors, en fait, dans ma famille, le sport très très important, notamment sport de combat. J'ai champion de France de karaté, champion du monde de kickboxing, champion du monde de boxe thaï. Il y a tout ça dans ma famille. Et du coup, très tôt, mon oncle, qui est champion du monde de kick, il m'inscrit au karaté.
Ok.
Sauf que je suis d'un naturel pas très violent, du moins à l'époque, et je suis pas trop dans les sports de combat. Je suis très très efféminé quand je suis plus jeune.
Ah ouais,
Et en fait,
je savais pas du tout.
ouais. Super efféminé quand je suis plus jeune. Et du coup, le sport de combat, ça me va pas du tout. Et assez vite, quand j'ai donc, je me fais inscrire à 3 ans et à 8 ans, j'arrête. Donc, j'ai fait 5 ans de karaté. Je me suis arrêté ceinture verte ou ceinture bleue, je sais plus. Et au karaté, je sais pas si tu connais un peu, mais t'as deux manières de passer les ceintures.
Ouais, je crois qu'il
T'as
y a les katas.
les katas et les combats, en
Ouais,
fait.
c'est ça.
Exactement. Les katas et les combats. En 5 ans, je n'ai fait aucun combat. J'ai fait que des katas en 5 ans que j'apprenais par cœur et que je répétais parce que je n'étais pas d'un naturel violent à la base. Et assez vite, je me tourne vers le volley
Ah, t'as fait du volley.
à 8 ans.
Ok.
Donc je pars faire du volleyball, là où j'entraîne en grande partie des aptitudes qui me servent encore aujourd'hui, notamment le cardio, la vitesse l'explosivité et le saut. Je saute assez haut. Je fais du volley jusqu'en quatrième, donc j'ai dû en faire 7 ou 8 ans. Et le truc, c'est qu'en quatrième, je commence à faire des vidéos un peu sérieusement sur YouTube. J'ai envie de vraiment faire des vidéos. Et donc, pour gagner du temps pour faire mes vidéos, je décide d'arrêter le volley. Et là, du coup, je me retrouve sans sport pendant la troisième et ma seconde.
Ouais.
Puis en première, je reprends le sport avec le street workout et la musculation au poids de corps à la maison. J'ai fait un peu de salle. Un peu lors de la terminale, un peu lors de ma première année de fac et un peu lors de ma deuxième année de fac, mais c'était toujours assez peu. La vérité, c'est que je m'entraînais beaucoup dehors sur les barres ou en poids de corps. Et ensuite, à ma première année de fac, je retourne faire de la boxe. C'est-à-dire qu'en fait, là, je me réinscris à un sport de combat à ma première année de fac Et j'en fais et j'ai pas arrêté depuis, je fais de la boxe thaï, du coup.
Ok. Bah, sur le sport, là, je vais peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite. J'aurai des questions un peu plus précises à te poser
Ouais.
plus tard, peut-être dans le podcast. Mais déjà, je vais m'arrêter sur un truc que t'as dit. En quatrième, déjà, t'avais mis le volet un peu de côté
Ouais.
pour te concentrer sur les vidéos. Ça veut dire que est-ce que c'était déjà super sérieux à cette époque-là, en fait, les vidéos dans ton
Non,
cerveau?
c'était pas. Oui, dans mon cerveau, ça l'était.
Ok.
Sur le papier, c'était 300 abonnés. Mais
Ça. Ah
mais j'ai
bah.
en fait, faut se dire qu'en 10 ans de YouTube,
Ouais.
j'ai jamais fait genre 2 semaines sans vidéo. Ça fait depuis 10 ans que je poste des vidéos tout le temps. J'ai jamais arrêté, en fait.
C'est une dinguerie, hein. Il y en a plein qui pourraient penser justement que ton évolution récente, elle est sortie de nulle part ou que.
Ouais, mais en
Mais pas
fait,
du tout, en fait.
non, mais
Ok.
pas du tout. Ça fait, j'ai fait tellement de trucs sur Internet depuis des années et des années. Le dev perso, ça va être un. Pour ceux qui me suivent, je suis beaucoup plus. Ils savent que je fais des vidéos depuis très longtemps et que j'en continuerai d'en faire très longtemps. Le dev perso va être un arc parmi tant d'autres et on verra sur quoi je me tournerai après. Hein, mais c'est pas le truc en entier. Hein.
Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est que je pense que t'as un profil qui est un peu similaire au mien, et puis on est beaucoup à être comme ça. C'est que je sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'arrive pas à me projeter sur un domaine qui me passionne sur l'instant T pendant 5, 10, 15 ans, et je sais que mes passions vont changer, tu vois. Donc toi,
Ouais.
tu sais déjà à l'avance que le dev perso et le fait de faire des vidéos dans cette niche, c'est pas forcément un truc que tu vas faire pendant 20 ans.
Ah, ça c'est sûr. Mais
Ok.
pendant 20 ans, ça c'est sûr.
Ouais.
Pendant 2-3 ans encore, c'est possible, hein, largement. Mais je vais pas en faire mon plan de carrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un truc qui va m'intéresser toute ma vie. C'est YouTube.
Ouais.
Parce que YouTube, ça fait depuis 10 ans que je le fais. J'ai fait plein de chaînes YouTube. J'ai fait des trucs et tout. Donc. C'est un truc qui va rester, ça c'est sûr. Maintenant, ce que je vais faire sur YouTube, ça peut évoluer, changer. Et voilà.
Ok. Bah, je voulais aussi te poser la question par rapport. Je sais pas si t'es dans cette zone-là ou pas. Quatrième, ça me paraît un peu tôt pour bosser sur des projets de cette ampleur. Mais Crash Bandicoot, pour ceux qui savent
Oh,
pas.
non, 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 c'était beaucoup plus tard, ça.
Ça marche.
Ça, c'était en première qu'on avait lancé ça.
En
Quand j'étais en première.
première, ok. Donc
Ouais.
pour ceux qui savent pas, je pense que tu peux contextualiser au niveau de cette chaîne, du coup.
C'est la chaîne que je gérais, que je gère toujours. C'est moi qui fais la voix, c'est moi qui fais les vidéos dessus. Et ça depuis un petit moment maintenant, depuis 2020, depuis plus de 3 ans. Depuis plus de 3 ans.
D'accord. Et puis Crash Bandicoot, si je dis pas de bêtises, c'est une très grosse chaîne dans la niche jeux vidéo.
Ouais, c'est en info divertissement, ouais, c'est la plus grosse en France.
Ça marche. Et bah, tu sais quoi, on va parler de jeux vidéo un petit peu.
Ouais.
Quand est-ce que tu as commencé à jouer? Quand est-ce que ça a commencé à
Depuis
fonctionner?
tout petit, moi, j'avais joué à la Game Boy Advance, Zelda Minish Cap.
Ok.
Ça m'a fait rentrer dans le truc. Et ensuite, très Nintendo, vraiment tout ce qui est Nintendo, j'ai tout fait. Et pas mal PC aussi. Voilà, en gros.
Ok. Et cette passion pour les jeux vidéo, comment t'en es venu à te dire, parce que je crois que c'était Crash Bandicoot, forcément c'est avant ta chaîne Loan LV, comment t'en es venu
Ouais.
à te dire, bah vas-y, je vais professionnaliser un peu le truc, je vais m'y investir sérieusement, pourquoi pas, tu vois, rendre ça un peu plus business. Crash Bandicoot, ça reste un business aussi, c'est une chaîne YouTube qui fait de l'argent. Quand est-ce que tu t'es
Bien
dit.
sûr. Alors, Crash Bandicoot, en fait, je t'explique.
Ouais.
Moi, à la base, je suis monteur vidéo.
Ok.
On parle d'une époque, on parle de la seconde. De la seconde, je suis monteur vidéo, j'écris des textes et en fait, je suis pas que monteur, j'écris des textes aussi. Donc, j'écris pour les youtubeurs, je monte pour des youtubeurs, et des très très gros youtubeurs. Hein. On parle de genre plusieurs millions d'abonnés, mais genre en 2017-2018. Donc, j'écris pour ces mecs-là.
T'as le droit de citer les noms ou pas du tout?
Je sais pas. Donc on va dire que non.
Ok.
Mais je peux te les dire en off. Et
Ok, pas de
donc
soucis.
j'écris, je monte, et notamment je monte pour Trash.
Ok.
Du coup, la grosse chaîne Trash à l'époque. Je sais pas si tu connais un peu YouTube, mais à cette époque-là, en 2018 sur Trash, ou en 2019, je sais plus, il y a un drama qui fait que plein de gens de l'équipe de Trash, qui est une grosse chaîne où il y a plusieurs personnes, quittent l'équipe en même temps.
Je sais pas du tout.
Moi je n'ai pas quitté l'équipe. Moi, j'étais même pas apparu sur. Si, j'étais apparu sur des vidéos sur Pokémon Trash. Mais sinon, j'ai pas quitté l'équipe. Et moi, de mon côté, en plus de monter les vidéos sur Trash, j'avais ma petite chaîne, donc Leon LV, hein, c'est d'ailleurs sur la même chaîne, hein, c'est juste que j'ai repris cette chaîne-là. Sur ma chaîne Leon LV, je faisais des vidéos où je parlais de jeux vidéo en mode blague, humour, exactement dans la même chambre que je suis actuellement. Je faisais des vidéos où je faisais des blagues sur les jeux vidéo. Et du coup, à l'époque, le chef de Trash se dit, bah écoute, Leon, puisque t'aimes bien les jeux vidéo et qu'on va ouvrir une nouvelle chaîne de jeux vidéo qui va s'appeler Trash Bandicoot pour du jeu vidéo, t'es pas chaud de venir faire tes vidéos là-bas. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. C'est tout simplement ce qu'on a fait. Et donc, il m'a laissé quelques semaines pour me constituer une équipe, c'est-à-dire rédacteur, monteur. Au début, je faisais un peu tout,
ouais.
Rédaction, montage. Ensuite, je me suis plus spécialisé rédaction. Et là, depuis quelques temps, c'est beaucoup plus light pour moi. Il y a des gens qui vont écrire, qui vont monter. Moi, je peux donner des sujets, je peux corriger, mais ouais, c'est plus moi qui vais écrire et je vais juste record ma voix.
Ça marche.
En gros.
Ok. Mais tu sais que je trouve ça surprenant de ouf parce que je me doute bien que en seconde, quand t'es, parce que genre, je côtoie aussi beaucoup de petits jeunes, genre troisième, seconde, première, carrément. Bah, le monteur qui a monté mes vidéos cette année. Je crois qu'il doit avoir 15 ans, 15 ans et demi. Donc, je sais qu'à cet âge-là, c'est possible, tu vois, d'avoir un bon réseau. Mais ça me surprend, ouais. Mais ça me surprend vraiment, genre, qu'en seconde, enfin, comment tu connaissais le chef de Trash, genre, c'est une dinguerie.
C'est parce que, comme je t'ai dit, en seconde, c'était il y a 5 ans.
Ouais.
Et encore 5 ans avant ça, je faisais déjà des vidéos sur les jeux vidéo. Et à ce moment-là, j'ai pu déjà à parler avec un peu tout le game jeux vidéo de l'époque.
Ouais.
Pas les gros non plus, pas les joueurs du grenier, pas les gars comme ça, mais j'avais déjà pas mal de gens dans mon réseau, des youtubeurs qui avaient 10 000 abonnés, des youtubeurs qui en avaient 15 000, 20 000, c'est pour les OG qui connaissent un peu cette niche-là, typiquement c'était les gars comme Sareo, comme Askens, tous ces gars-là. Du coup, évidemment, Trash aussi, je les connaissais parce que par l'intermédiaire de gens qui les connaissaient, on s'est connus, ils commentaient sous mes vidéos. Et assez vite, en seconde, non pardon, de pendant les vacances de la troisième à la seconde, pendant les grandes vacances, il y a eu un concours sur Trash pour chercher des gens pour travailler. Et j'ai participé au concours, et du coup j'ai été sélectionné, et du coup j'ai été recruté en tant que monteur en seconde. Et pendant un an et demi plus ou moins, j'ai monté plein de vidéos sur Trash, et écrit aussi notamment.
Ça marche, ok, parce que je crois que dans tes vidéos, ça me surprend, parce que dans tes vidéos, tu disais, ouais, j'ai commencé l'amélioration personnelle, entre guillemets, à être stylé, hein, avec des guillemets, à partir de,
ouais,
à partir de fin, je crois que c'est plutôt fin lycée, mais techniquement, t'es...
En fait, c'était plutôt première que j'ai commencé, en fait, pour être exact,
ouais.
C'est faire des vidéos, je l'ai jamais pris en compte dans l'aspect dev perso de ma vie parce que ça a toujours fait partie de ma vie.
Et pourtant, ça aurait sa place, tu vois. Ça aurait.
Mais ça aurait sa place d'un point de vue business, complètement.
Ah ouais.
Faut se dire qu'à l'époque, au lycée, personne savait. Même j'étais déjà apparu sur Pokémon Trash en seconde. Personne savait, alors que c'était des vidéos qui tapaient des centaines de milliers de vues, tu vois. Personne savait que c'était moi. Je le disais pas. Donc il y avait pas de statut qui partait de ça. Il y avait un peu d'argent, mais c'était tu vois, t'es monteur au lycée, tu fais pas ça à temps plein, c'est pas non plus c'est quelques centaines d'euros par vidéo, ce qui est très bien, surtout à l'époque, mais ce qui n'est pas non plus tu deviens pas riche comme ça. Et du coup, ça, oui, on peut dire que c'est une évolution d'un point de vue business. Maintenant, pour moi, ma vraie amélioration, ça a été au moment où on a vraiment lancé Trash Bandicoot et que je m'y suis mis vraiment sérieusement dedans. Parce que tu peux avoir les business sur internet, genre faire du montage et tout, mais pas être sérieux, le faire rarement. À cette époque-là, je traversais un deuil, donc j'étais pas du tout actif. Mais tu peux aussi commencer sérieusement à faire le sport, commencer sérieusement à être sur une chaîne YouTube, mais à vraiment t'impliquer et à travailler genre tous les jours dessus. Et ça, c'est plutôt arrivé pendant le confinement, en première. Le sport un peu juste avant, quoi, mais on va dire pendant la première, quoi.
Ok, bah carrément, juste avant de passer sur, on fait, je le fais un peu dans l'ordre chronologique, hein, sur la fin du lycée, etc., et puis Même ton parcours à la fac qui m'intéresse énormément, puisque
Tu me diras.
c'est à peu près le même délire. Hein. Je suis allé en maths info à
Ah ouais?
j'étais en maths info à Paris, donc c'est là.
Oh,
Donc
où ça?
j'étais, alors moi c'était ma fac s'appelle l'Université de Paris. J'étais au campus, c'était à côté du musée d'Orsay, si je dis pas de bêtises, dans le 6e, à
Dans le
Saint-Germain.
sixième? Ah non. Ouais, je vois.
Tu vois?
Non, bah Saint-Germain-en-Laye, c'est ça?
Non, même pas
Non. Ah non, ah, dans
dans
Paris.
Paris, ouais, dans Paris. J'étais
Ah.
juste à côté du musée d'Orsay. En gros, bah t'étais à quelle fac toi en fait?
Au Grand Moulin,
Mais
dans le
oui,
douzième.
c'est ça. Bah en fait, on était dans la même fac, hein.
Ah!
Les grands moulins et c'est dans l'université de Paris, tu vois. Et moi, j'étais juste dans l'autre campus
Ah,
comparé à toi. Donc
d'accord. Ok.
on était en maths info en même temps. Mais toi, je pense que t'avais pris. Je crois que c'était
Non, en fait, moi, c'était pas maths info. Je dis maths info
Ouais.
pour simplifier, mais c'est MIAJ que je faisais. C'est-à-dire maths info appliquée aux
Ouais,
sciences humaines et
sciences humaines et
sociales.
sociales, ouais, exactement.
C'est ça. Mais vous savez, c'est la même chose, quoi.
Et bah j'ai failli être dans ta promo puisqu'on a le même âge. J'hésitais entre Biage et Math Info, genre Math Info pure, tu vois. Et le campus Math Info pure, c'est de l'Université de Paris. Du coup, c'était pas au Grand Moulin,
Ok.
c'était à Paris 6. Et donc, bref, ça m'intéresse à mort parce que même délire, je suis allé là-bas pour quelques mois, ça m'a pas plu, je me suis barré, donc on en parlera un peu plus tard.
Oh mon Dieu, c'est fou. Ça, c'est fou que t'aies la même histoire que moi, parce
C'est la même
que
chose, mec. Hein.
ça, c'est excellent. C'est. T'es. Waouh. T'as fait. Ouais. Ouais,
Ouais,
c'est.
on en parlera juste après, mais ça,
On peut en parler, ouais.
ouais, à chaque fois que t'en parles en vidéo, ça me rappelle ma souffrance dans le RERC tous les matins, c'est la même chose.
Aïe, 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 aïe.
Mais bref, du coup, juste avant, j'avais une question business au niveau de Trash Bandicoot. Pour les genre, tu vois, je me représente bien comment on paye des monteurs puisque je le fais, comment on paye des copywriters puisque bah, j'en suis un moi-même, mais comment on fait pour un comment ça s'appelle? Pour un business avec autant de personnes, tu vois, que Trash Bandicoot, ça marche comment? Ça marche à la commission sur les ads, ça marche au pourcentage, ça marche comment on rémunère tout le monde, tu vois?
Je peux pas dire. Trash Bandicoot, c'est pas ma chaîne à moi.
Ouais.
C'est la chaîne que je gère,
Ouais.
qui ne m'appartient pas.
Ouais.
Les trash ne m'appartient pas. C'est pas ma société. Et légalement, je peux pas dire ce genre de truc.
Ça
Désolé.
marche, y a pas de souci. Ça m'aurait intéressé de savoir le
Mais il
système de
y a beaucoup
rémunération.
de monde et c'est une très bonne organisation. Voilà.
Ok, ça marche. Bah carrément, histoire de se rapprocher un peu plus de la fac, est-ce que tu peux me parler de confinement, post-confinement, pourquoi t'as choisi Math Info, ton orientation, enfin tout ça quoi.
Ouais, alors,
Ouais.
chose à savoir, c'est que j'aurais toujours pu vivre des vidéos. Genre pour de vrai,
Ouais.
si un matin je me levais et que je me disais, ok, disons que je travaille 3, 4 heures par jour sur Internet, je peux en vivre. Genre vraiment, tu vois.
Ouais.
Sauf que j'étais un putain de flemmard. Donc, au lycée, je ne vivais évidemment pas des vidéos. Enfin, aussi, en fait, j'aurais pu en vivre si j'étais très, très, très modeste. Genre quelques centaines d'euros dans le mois, tu vois. Mais bon, vous êtes des pauvres,
Ah,
quoi.
pour un lycéen, 600 700 euros, tu vis
Ah
largement,
oui, c'est sûr, c'est
hein.
sûr. Mais bon, bref, on arrive à la fin du lycée. J'ai développé Trash Bandicoot, j'ai fait des trucs, mais je peux pas en vivre encore à ce moment-là. Mais c'est parce que je travaille pas assez. Techniquement, je peux vivre de ces vidéos, mais il faut que je fasse plus de vidéos, en gros. Bref. Donc, naturellement, je vais à la fac. Je choisis la fac de MIAJ de Nancy à ce moment-là.
Ouais.
Donc je vais en L1, en première année de fac, que je réussis sans trop de soucis en maintenant Trash Bandicoot, en maintenant la muscu, en maintenant la boxe. Et je pars à Paris en L2
Ouais.
pour poursuivre ma L2 là-bas parce qu'il y a tout. Faut dire que j'ai beaucoup de potes youtubeurs qui aujourd'hui. Finalement, enfin, on se parle plus trop, on va dire. Mais bon, bref, à l'époque, j'avais énormément de potes youtubeurs et que je voulais aller voir et que je voulais vivre avec, enfin, vivre proche d'eux à Paris. Ils font tout le temps des soirées là-bas, ils font tout le temps des events, des trucs. Et moi, je me dis, putain, c'est un truc de ouf que moi, à chaque fois que je dois faire les trucs comme ça, je dois prendre le train. Donc, je me dis qu'en allant directement à Paris à la fac, ça ira. Donc, je fais ma L2. Du coup, au Grand Moulin. Je passe 2 semaines au Grand Moulin. Je suis déprimé de ouf parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais à Nancy. À Nancy, c'est pas du tout la même chose. Donc, je quitte les Grands Moulins et j'essaie de trouver une autre fac de MIAJ sur Paris.
Putain.
Coup de bol, j'étais accepté. J'étais pas, quand j'étais en fin de L1, comme j'avais des bonnes notes, j'étais accepté par globalement un peu toutes les facs de Paris. Donc je pouvais encore aller à Versailles ou dans le 9-2 à Nanterre.
Ouais.
Et 9-2, c'est bien parce que tu sais, je suis dans. Je sais pas si tu visualises Paris, j'étais dans le 16e, mais genre vraiment à côté de Boulogne.
Ouais,
C'est-à-dire que.
bien sûr, vu que j'habite en banlieue parisienne, Paris, je connais comme ma poche.
Ouais.
Donc, ouais.
Ok. Donc j'étais dans le 16e. Attention, pas dans les grands apparts
Ouais.
du 16e. Hein. Tu sais, les gens, ils disent, ouais, Lohan, tu dis que ta vie était pas cool, t'habitais dans le 16e. Oui, non, mais dans le 16e, c'est parce que c'est là qu'il y a toutes les chambres de bonne de 9 mètres carrés.
Oui, faut que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas que des appartes haussmanniens à 5 000 euros par mois de loyer.
Il y a le 16e et il y a le 16e. Bref, tu sais, quand tu dis le 16e, tout le monde pense les riches, en fait.
Bien
Mais
sûr.
c'est pas du tout. Genre, t'as vraiment moitié de riches et moitié de chambres de bonne.
Ouais.
Ils sont vraiment tous entassés en haut des immeubles. Bref. Parce qu'on va dire que, genre, tu sais, dans les immeubles haussmanniens, dans le 16e, enfin, là où j'étais, c'est genre une ou deux personnes par étage. Sauf qu'au dernier étage, t'as genre 20 personnes. Et c'est cet
Ouais.
étage. Donc, globalement, c'est moitié-moitié, tu vois. Bref. Et du coup, je pars dans le 9-2 à Nanterre, mais c'est à peu près pareil. J'ai tout, tu vois, imagine 12e arrondissement, 16e arrondissement. Donc, c'est beaucoup de trajets. Et ben là, imagine 16e arrondissement, 9-2. C'est globalement la même chose, hein. Je suis pile entre les deux, quoi.
Ouais.
Donc, je fais mes 1h30 de RER. Je suis pas très heureux. Et c'est pas une histoire de cours. Les cours, j'y arrive. J'ai jamais été nul en maths, nul en info. Les cours, j'y arrive vraiment. Il y avait un cours de maths où j'étais vraiment nul, mais bon, j'aurais pu réussir sur les autres trucs. C'était vraiment le fait de faire 1h30 de RER tous les jours qui me déprimait à balle. Et donc, j'abandonne la fac, j'abandonne mon appart que je n'ai pas payé, hein, d'ailleurs, parce que y avait un problème d'eau. J'avais pas d'eau chaude, tout simplement, dans mon appart. Donc, le proprio m'avait dit que tant qu'il n'avait pas d'eau chaude, il suspendait le loyer. Donc, au final, j'ai jamais payé mon appart. J'ai emménagé dans un appart gratuit que j'ai pas payé, mais juste, il n'y avait pas d'eau chaude. Et je repars chez moi dans les Vosges. Dans les Vosges, complètement déprimé. J'ai plus de potes. Plus d'école, plus de fac, plus de meufs également, plus donc ça c'était en octobre, donc il y a 11 mois
D'accord.
et je suis genre au plus mal et par chance j'arrive à me faire réaccepter 2 mois plus tard par la fac de Nancy pour ma L2 que pareil j'ai plié sans aller en cours. Du coup je me suis quand même pas retrouvé avec rien du tout. J'ai quand même eu une L2 que j'ai faite en maths info, que je viens de terminer là d'ailleurs, mais que j'ai pas poursuivi parce que du coup, bah là, je fais mes vidéos.
Ok.
Et voilà.
Ok. Bah, juste avant de parler du début de la chaîne, etc., je pense que on peut se mettre d'accord sur le problème du lifestyle d'étudiant parisien. Je te le dis, moi, je
Ouais.
pense que je
Ouais.
suis un autiste pareil que toi, et le fait de prendre le RER le matin à 6 h, rien que de voir les gens déprimés dans le froid, je te jure, Loane, je pouvais pas.
C'est. Ligne 9, je sais pas si tu prenais la ligne 9, mais c'était la plus bondée, c'est celle que je
Ah
prenais.
oui, la...
Horrible, mais t'es serré, mais pendant 40 minutes,
La
mais serré.
9, celle qui va à Levallois? C'est...
Je crois pas que la 9 aille à Levallois, il me semble
Je sais
pas.
même plus quelle ligne elle fait, mais... En...
Je sais plus du tout, je t'avoue non plus. La 9, je crois qu'elle. C'est Boulogne? Non, c'est la 10. Bon, j'en sais rien, je
Ça,
sais
mais
plus.
oui, de toute façon, le... Non, non, c'est bien la preuve que même quand t'es revenu chez toi, chez tes parents, l'environnement, t'a quand même permis
Ouais.
de continuer à faire ta licence sans te déprimer, quoi.
Et ça m'a permis aussi de lancer une chaîne YouTube parce que lancer une chaîne YouTube quand t'es un étudiant à Paris, mec, tu sais ce que c'est, t'as plus d'énergie quand tu rentres chez toi le soir. C'est un truc de fou.
L'entraînement, t'es 50% moins fort, t'as envie de rien
C'est oui,
faire.
oui. C'est vrai. C'est vrai. T'as à peine le temps de préparer tes plats pour. Enfin, je sais pas si tu prépares tes plats en avance, moi c'est ce que je faisais. T'as à peine le temps de préparer tous tes plats pour la semaine, qu'il est déjà super tard. Impossible de lancer, c'était pas possible pour moi de lancer une chaîne YouTube à l'époque,
Ouais.
tout simplement.
En première et en deuxième année de licence maths info, ouais, je préparais mes plats, mais c'est que je sais pas si ça te l'a fait. Moi, ça a beaucoup joué sur le fait que j'ai pas sociabilisé là-bas parce que je mangeais tout seul.
Ah,
Genre,
ah.
j'allais pas à la cantine, tu vois.
Ouais.
Vraiment, j'autistais à fond. Genre, j'avais mes meal prep tout seul et je regardais les gens qui mangeaient de la merde à la cafétéria et je me disais, putain, mais quelle bande de losers. Au final, je sociabilisais avec personne, tu
Non, moi je faisais pas ça parce que je préparais que mes plats le
vois.
soir
Ouais.
Et le midi, j'allais manger comme de la merde avec les losers. Non, non, mais je, non, en plus, je rigolais un peu. C'était pas un souci social.
Ok.
Franchement, j'avais des potes. Enfin, j'ai toujours. Enfin, non, pas toujours, mais depuis que j'ai un peu amélioré mes skills sociaux, tout ça, j'ai plus eu de mal à me faire des potes.
Ouais.
Donc, je me suis fait des potes, que ce soit à Paris 10 ou à Paris 7. Je me suis fait des potes. Le seul souci, c'est que bah, j'aimais pas en fait le lifestyle, tu vois. Je suis un mec qui a des projets, je suis un mec qui veut faire des vidéos, et t'as pas le temps de faire des vidéos quand tu fais 1h30 de trajet tous les jours, tu vois.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Bah justement, quand t'es revenu chez toi, dans les Vosges, etc., que t'as commencé à faire ta chaîne YouTube, est-ce que directement tu t'es dit, est-ce qu'il y a eu directement en fait une influence d'Hamza? Parce que je sais que t'en parles
Ah
un peu
mais
de.
alors non non non, en fait je t'explique.
Ouais.
C'est je ne connaissais pas Hamza.
Ouais.
Quand je suis rentré, je ne connaissais pas Hamza.
Ok.
Et j'ai repris ma chaîne en faisant des vidéos, mais qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais là, juste raconter ma vie à Paris, tout ça, des petits trucs de dev perso, sans les Wojak, tu vois.
Ok.
Et je faisais ça. Et puis il y a un jour, il y a mon pote Elian, il me monte la chaîne de Hamza pendant que j'étais complètement déprimé. Et non seulement je kiffe le mec,
Ouais.
genre je trouve le gars absolument fou. Objectivement, j'adore le mec, je suis vraiment fan premier degré d'Hamza. Mais en plus, je me suis dit le concept de Wojak Hunter Merguez marcherait tellement bien en France. Mais genre, c'est sûr, tu vois, c'est la chaîne de Hamza, elle pète, je pense, en grande partie pour
Bien
ça.
sûr.
Je me suis dit, waouh, ça marcherait tellement bien. Et truc de ouf avec Hamza, c'est qu'il fait une vidéo à ce moment-là, ou un peu avant, je sais plus. Il fait une vidéo où, en gros, il dit, ouais, faites les mêmes vidéos que moi.
Je m'en souviens, ouais. Je m'en
Alors,
souviens, ouais.
c'était une vidéo qui était super controversée à l'époque, enfin, pas en Angleterre, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que globalement, on disait que c'était pyramide de Ponzi, tu vois. Genre, ouais, si tu fais des intros, donc lui, c'est Jeffrey Adonis. Si tu fais les intros de Jeffrey Adonis, tout le monde va penser à Hamza, et en fait, tu le sers lui, et toi, ça t'aide pas. Moi, je pense pas. Je pense que faire des vidéos, juste commencer à faire des vidéos, c'est un très très bon move pour être fort et tout. Mais effectivement, c'est assez compliqué de faire le concept de Hamza aux États-Unis. C'était vraiment lui qui était gagnant à 100 000%. Et c'est pour ça que c'était controversé. Ce que je peux comprendre, même si je suis pas d'accord, ce que je peux comprendre, pourquoi on pouvait lui reprocher des trucs. En France, ou enfin dans une autre langue, tout simplement, je veux dire, ça, c'est des vidéos qui vont marcher, tu vois.
Bien sûr.
Donc c'est un bon conseil, c'est un super bon conseil qu'il a donné à ce moment-là. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait des Français hein, qui suivaient Hamza, donc j'étais pas le seul à faire ça. Il y avait plein de Français qui faisaient le même style de vidéo et à ce moment-là et moi ça a pris un peu plus que les autres parce que peut-être que je parle mieux à une audience qui est pas la même, on va dire. Tu vois, Hamza c'est quand même on va pas nier l'influence très très red pill de Hamza, tu vois, qui est pas trop pour les plus jeunes, tu vois. Même si en vrai il y a beaucoup de jeunes dans son contenu, mais c'est assez peu. En fait, c'est très. Je caricature complètement. Je sais que c'est pas le cas pour Hamza, mais c'est très le mal alpha, tu vois. Et le truc, c'est que tu peux pas faire ça quand t'es moi. Je suis pas le mec sourcils froncés, grosse barbe et tout, qui va dire des trucs red pill et tout. Donc, t'es obligé de tourner à une autre sauce, faire plus de vannes, aller plus light sur certains trucs. Et je pense que c'est ce qui plaît plus en France, pour le coup.
Ouais, surtout que t'as une personnalité qui est quand même, même si on en parlera quand même de certaines critiques, je pense que d'ailleurs c'est sûr que t'as pu recevoir vis-à-vis de ça en mode ouais, Loan, tu copies Hamza, blablabla. Bon, c'est sûr que t'as eu des trucs comme ça.
Bah, c'est sûr. Et je comprends, quelque part, mais le truc, c'est que j'invite les gens qui pensent ça à regarder vraiment les vidéos et à se dire, est-ce qu'ils copient, enfin, comment dire, est-ce que c'est vraiment la même chose ou est-ce que c'était au début que c'était la même chose, qui était le cas, hein, bien sûr. Est-ce que c'est au début et maintenant, en fait, il a pas de nouveaux trucs à apporter, des trucs en plus. J'invite les gens qui pensent ça à regarder plus en détail et se forger leur propre avis, hein.
Ouais, pour moi, c'est un avis que j'ai depuis longtemps sur ta chaîne. C'est que au début, hein, très clairement, et puis comme même toi, tu le dis, je trouvais que c'était similaire ju jusqu'aux formulations, tu vois, ju
Ouais.
jusqu'aux phrases. Et actuellement, pour avoir suivi l'évolution, c'est pas totalement, parce qu'il y a bien sûr qu'il y a encore l'influence d'Hamza, mais en tout cas, ton individualité se voit beaucoup plus. Il y a des sujets même sur lesquels je crois que t'es pas d'accord avec lui, il y a des choses qui changent à mort,
Ouais, bien sûr.
et ça rend tes vidéos d'autant plus agréables à regarder, vraiment.
Bah, c'est cool, mais j'invite les gens qui pensent encore ça de moi, parce que c'était les vidéos qui m'ont fait péter à l'époque. J'invite les gens qui pensent encore ça de moi à regarder, juste plus en détail, et voir si même si vous pensez que vous connaissez déjà, regardez si vous pouvez pas trouver des trucs intéressants. Voilà. Et voilà.
Par rapport à ce que tu as dit sur le côté Red Pill d'Hamza, alors oui, c'est sûr, et je pense que même que ce soit toi, moi ou tous les jeunes un peu dans la niche dev perso, on a eu un côté, un moment de nos vies en tout cas
Ouais.
très Red Pill, mais je trouve que actuellement, je sais pas ce que tu en penses, et puis même ça se voit dans le branding d'Hamza, on va dire, je trouve qu'il se met quand même pas mal en opposition par rapport
Ah ouais, oui,
au Red,
je suis
ouais,
complètement
par
d'accord.
rapport
Maintenant,
au Red
oui.
Pilleur classique qu'on connaît, tu sais, les mecs un peu
Ouais.
controversés sur les plateaux qui disent des dingueries,
Oui, je vois très bien. Et contrairement, là, Hamza qui rejette son côté dégène, qui va un peu faire, qui va vraiment parler de trucs, on va dire, comment dire, de masculinité tradie, très chouette, religion, tout ça, je valide fort à 100%. Mais c'est pas le contenu qui l'a fait connaître. C'est pas quand tu vas sur sa chaîne, c'est pas ça que tu vois en premier. Tu vois ce que je veux dire? C'est les nouvelles vidéos, les dernières vidéos qui sont plus longues, qui sont sans montage, qui ont rien à voir avec ce qu'il faisait à l'époque. Mais ça, j'adore, hein. Ça, franchement, je kiffe.
Bien sûr. Et puis même, ça m'a surpris que les vidéos d'Hamza longues comme ça fassent autant de vues. Alors après, il a, entre guillemets, hook la plupart de son audience avec des vidéos ultra cut, ultra dynamiques. Mais les vidéos qu'il fait, là, les sortes de guides ultra complets, hein, d'un
Ouais.
point de vue business, je trouve ça phénoménal. Il a moins de montage, moins de charge, moins de prise de tête. Il y a toujours autant de vues. Le watch time est plus long. Enfin, c'est incroyable.
Ouais, c'est oui, je suis d'accord, complètement.
Tu...
Il est très fort. C'est aussi ce que j'essaye d'importer en France, les guides complets. J'ai fait un surmonter un deuil guide
Ouais,
complet.
j'ai vu
Je vais
ça.
essayer d'en faire d'autres. J'ai vraiment envie d'importer ce format-là en France, puis comme tu dis, très peu de contraintes, très chouette, et je trouve que c'est le contenu qui est le plus intéressant en termes de valeur. J'ai envie de pareil importer ce truc-là en France.
Ouais, et bah franchement, dans n'importe quelle niche, hein, un de mes colocs, je pense pas que tu connaisses, qui s'appelle Sylvain, qui fait du montage. Il a commencé à faire ce genre de contenu, des guides complets en montage, ça marche de ouf. Enfin, toutes les niches, je pense que
Ouais,
ça a un potentiel.
c'est génial, bien
Je pense
sûr.
que dans toutes les niches, le fait de faire des guides ultra longs, ultra, même sans montage, tu vois, ça a un potentiel de dingue. Donc, je m'y mettrai peut-être un jour aussi.
Ouais. Guide complet à voir le drapeau.
Guide complet. Bah, en soi, je faisais beaucoup de street sur YouTube ces 2 dernières années. Mais je suis en train de rechanger, on va dire de rebrander ma chaîne, entre guillemets, puisque je me suis rendu compte que là où j'avais le plus de trucs à apporter, je pense, c'est au niveau de tout ce qui est marketing, stratégie, copywriting, réflexion autour du business tout simplement. Et donc je pense que je vais plutôt partir sur ce genre de choses, même si le street reste évidemment mon cœur de business et c'est ce qui m'a fait manger pendant les... Est-ce que ça fait 2 ans que je vis du... Non, un an je dirais, un an. Donc voilà.
Ok.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question au niveau d'Amza? Ouais, c'est ça. Au niveau du business et de l'évolution de ta chaîne, est-ce que tu comptes suivre une ligne directrice assez similaire? Parce que je sais pas si avant Adonis School, tu suivais les formations qu'il faisait, etc. Mais Amza, c'est un mec qui a jamais eu...
Je suis pas les formations de Hamza, tout ça.
Ah ouais? Ok.
Non, non, je suis pas dedans.
Ok. Mais est-ce que tu suivais au moins de loin comment il monétisait ça ou pas?
Ouais bah ouais enfin c'est assez classique, tu fais des tu chopes des mails,
Ouais, bien sûr.
tu crées un produit payant, tu shoots ta base mail, tu fais des upsells,
C'est ça, c'est ça.
tu fais de l'argent sur les upsells, éventuellement tu fais comme Amazon une communauté en ligne, tout ça. Moi je suis pas fermé à cette idée du tout. Le truc c'est que j'ai pas encore de produit, je bosse sur un produit payant actuellement, mais qui est pas très cher en plus, donc c'est pas un truc qui va être payé 100 € une formation, un truc comme ça. C'est un truc qui va coûter 40 balles, qui est un guide sur YouTube pour démarrer sur YouTube. Ça va faire un peu d'argent maintenant, je sais pas si ça va faire beaucoup d'argent, et d'un point de vue business, j'ai pas besoin de faire énormément énormément d'argent. Si je peux faire entre 5 et 10 000 de bénéf, je serais très heureux déjà, tu
Et ouais,
vois.
j'avais entendu que tu commençais à teaser ça parce que pour ceux qui ne le savent pas forcément, je pense que tu dois avoir. Bah déjà, tu as forcément plusieurs sources de revenus, mais dont une dont tu parles pas très souvent sur ta chaîne, mais je pense qu'il y a quand même de la demande, c'est les
Ouais.
consultations que tu fais pour.
Ah ouais, oui, non, franchement, pas grand-chose. J'ai genre Après, c'est normal, il y a que deux créneaux par semaine.
Ok.
Donc j'ai une ou deux consultations par semaine à 150 euros.
Ok.
C'est pas non plus des 1000 et des 100, tu vois.
Ok. Mais moi, je pense que, en tout cas, le produit que tu vas faire va cartonner. Je pense que dans ton audience, c'est.
Je pense qu'il va
Ouais.
cartonner et je pense qu'il va être très 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 qualitatif parce que c'est pas genre, tu sais, les guides YouTube en mode habituel, genre, oui, mets des tags sur tes vidéos, mets des. Fait la SEO, le machin et tout. Non, c'est vraiment un guide qui va plutôt être en mode comment faire de bonnes vidéos, tu vois, pour maximiser ton watch time et comment trouver de bons sujets aussi. C'est vraiment un guide qui va être plus orienté dans ce sens-là plutôt que de la technique, en fait. Ça va vraiment être un guide sur la création de contenu.
Bah, c'est super lourd et je pense qu'on en a vraiment besoin. Il n'y a pas de contenu parce que je sais que t'en parles souvent de ça. Bah, tu avais même fait une vidéo sur les formateurs, est-ce que c'est des arnaques ou pas? Et après, tu sais
Ouais.
que tu as tellement d'influence à ce niveau-là que ce soit mon pote qui fait des formations de montage ou moi dans mes formations de street, on a eu des clients qui sont venus nous dire ouais, Loan, il a dit, il n'y a pas assez d'actionable steps dans vos formations.
Waouh.
C'était tellement drôle, mais le pire c'est que t'as totalement raison, tu vois, et bah ça m'a fait me remettre en question dans mon propre business. Je me suis dit, bah attends, est-ce qu'il y a vraiment des actionable steps dans mes formations, tu vois? Donc je suis allé rebrander un peu les choses et tout, et je pense que ça là, ce genre de petits conseils, de trucs concrets, tu vois, pas juste mettre des tags, etc. Bon, tout le monde a déjà essayé, ça change pas, ça va pas changer ta destinée sur YouTube de mettre les bons tags. Enfin, si t'es un mauvais YouTuber, tu vois ce que je veux dire?
C'est ça, en fait, si t'as pas le bon watch time, si t'as pas le bon taux de clic, tu peux mettre tous les tags que tu veux,
C'est
ta
ça,
vidéo va pas marcher.
exactement. Donc non, je pense qu'il y a une forte demande sur ça. Et c'est ça que je voulais te demander aussi. Est-ce que tu comptes, te la tuer au niveau du copy, de la page de vente, etc. Ou alors tu comptes juste sur ton personal branding?
Je vais filer ça à un mec qui est très très chaud. Est-ce que tu. Est-ce, peut-être, ça se trouve, tu connais,
Dis-moi.
hein. Ça te dit quelque chose, Badis?
Pas du tout. C'est un copywriter?
Bon, ouais, c'est un copywriter. Je vais filer ça à un mec qui est très très chaud, qui a fait ça pour d'autres youtubeurs. Il va faire un truc genre assez basique, genre très simple. Tu sais, avec le bon copywriting à l'ancienne, à la. Comment ça s'appelle Monsieur Dotcom Secret, ça, comment il s'appelle?
Ouais,
Russell
Russell
Brunson.
Brunson, ouais, Russell Brunson.
Voilà. Avec les vieilles techniques, les trucs comme ça. Je laisse complètement faire le site. Il m'a dit il faudra faire une vidéo de vente. Tu pourras la faire. J'ai dit pas de souci, je te laisse faire le truc. Par contre, évidemment, sur la vidéo de vente, il va pas non plus dire des dingueries, genre des promesses inatteignables, des trucs comme ça. Mais bon, je pense que. Tu sais, c'est classique, hein. Promesse de résultat, urgence. Je suis pas
Ouais.
expert en copywriting, mais je connais, je sais très bien ce qu'il va faire globalement. Il va faire un truc, un site genre en mode assez simple, promesse de résultat, urgence, et voilà quoi.
Ça marche.
Je dis ça comme si je suis un pro, je suis pas un pro du tout,
Ouais, bah,
mais je vois très bien comment ça va rendre
bien
quoi.
sûr, bah, même sans faire du copywriting ton activité principale, ce genre de levier, tout le monde les connaît. Enfin, tu gagnes ta vie sur Internet depuis longtemps.
C'est
Ouais, bah
ça,
oui.
exact. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ok, bah c'est super intéressant. Parce que moi, c'est ce qui m'avait est-ce que ça se dit frapper à l'œil? Oui, je crois que ça se dit. Sur
Tapez à
taper à l'œil, oui, c'est ça plutôt. Pourquoi je suis agressif dans mes expressions?
l'œil.
Taper à l'œil avec l'ancienne monétisation d'Hamza, c'est-à-dire que ses produits payants, c'est la page de vente qu'il faisait sur ClickFunnels d'ailleurs à l'époque, c'était tellement basique, genre juste une photo d'Hamza, ça convertit, tu vois.
Ouais,
Donc.
mais c'est sale, c'est le marketing où t'as des sites pas
Ouais,
beaux et c'est ça qui marche le
ça marche à
mieux et les
mort.
quinri le font très bien. En France, ça n'existe pas de fou encore. Et je pense que moi, du coup, mon truc va ressembler à un truc moche. Mais c'est ce qui convertit le mieux.
Ouais.
Il m'a dit, le mec, il m'a dit, écoute, je sais pas pourquoi, les pages de vente moches, ça convertit mieux. Donc, on va faire un truc moche.
Bien sûr, bah ouais, le design d'une page de vente, c'est vraiment pas très important. C'est vraiment pas très important. Étonnamment d'ailleurs, mais.
Plus c'est simple, mieux c'est, il m'a expliqué en gros.
Ouais, c'est vraiment ouais. Ah oui, ça que je voulais te demander aussi. Au niveau de, bah forcément, tu vois, au niveau du business en ligne, le nerf de la guerre entre guillemets. Alors bon, tu commences à, là, on peut clairement plus dire que t'as une petite audience, 100 000 abonnés, c'est balèze, tu vois. Mais
Ouais, c'est clair.
pour nous autres petits youtubeurs, pour vivre de ce qu'on fait, on est obligé de passer par l'email parce que de toute façon, on fait, que ce soit moi ou mes potes qui font des vidéos à 2, 3, 4 000 abonnés, en ads, on fait rien, tu vois. La plupart de nos revenus viennent de la vente de formation. Et donc, l'email, si on n'avait pas de base email, ce serait la merde, tu vois. Ouais. Est-ce que avec juste le petit lien que tu mets dans ta description, tu récupères masse email? Ça m'intéresse.
Ouais.
Ouais?
Ouais.
Putain, mais c'est chaud.
J'en ai. Alors, bon, j'avoue, j'ai fait un truc pour augmenter mon nombre de mails. J'ai fait un
J'ai
concours
vu, ouais.
pour augmenter mon nombre de
Ouais, j'ai
mails.
vu.
Mais sans ce concours,
Ouais.
là, je suis à 5000. Sans ce concours, je suis à 4000.
Putain.
Juste avec le lien.
Putain, mais.
Donc, les gens, si tu leur demandes le mail, ils le mettent. C'est
Ouais, je
vraiment.
sais, mais tu sais que bah 4000 en vrai, ça fait beaucoup de mails, mais pour ta chaîne, c'est pas
Tu
énorme.
penses qu'il y aurait plus?
Ouais, bah pour te donner une idée, j'ai 1000 abonnés sur YouTube, j'ai 1000 mails.
Ah ouais,
Ouais, mais
d'accord.
après mon pote, bah
Ok.
mon pote Sylvain qui vend des formations de montage, et d'ailleurs, alors lui, je sais que ça marche extrêmement bien, le montage c'est une niche qui est incroyablement rentable, tu le sais mieux que moi,
Tu
il
m'étonnes.
a 3000 abonnés, il a 5000 mails, je crois. Donc il a plus de mails que d'abonnés. Mais après,
C'est qu'il a des mails qu'il a chopé en natte, c'est ça?
même pas, c'est juste que il y a des gens en fait quand tu proposes,
Il y a des gens qui
c'est
regardent
ça,
et qui mettent le
sans
mail,
s'abonner.
mais qui s'abonnent pas.
Ouais.
Ça, c'est très très
Ça
fort.
c'est très fort, tu
C'est
vois.
mais après, c'est quand tu il faut filer des
C'est
cadeaux.
ça,
C'est ça le truc,
et
je
c'est ça
pense.
que je voulais te demander. Est-ce que, parce que, mais en fait, tu fais des vidéos sur des sujets qui sont tellement diversifiés. Est-ce que t'aurais pas envie de faire des lead magnets de temps à autre, genre des petits.
Excuse-moi, je sais pas ce que
Ah,
c'est. C'est quoi un lead
ok, bah je
magnet?
suis un ouf, je dis le mot comme si. C'est juste un petit cadeau
Ouais.
gratuit, genre une petite formation gratuite, des choses comme ça. Et tu sais que si tu fais ça, genre avant ton lancement de produit, tu prends 5 ou 10 000 mails de plus. Genre, c'est sûr et certain, tu vois. Et.
C'est un très bon
Ah, bah
conseil.
oui, j'y.
Bah, je ferai le tuto comment avoir le drapeau. Je ferai le tuto comment avoir le drapeau. Je l'enverrai par mail.
Même pas, mais genre après ça c'est un truc qui marche bien de ouf avant un lancement de produit, et je l'ai vu pour moi-même et pour d'autres potes, genre une formation gratuite sur le sujet où tu vas vendre quelque chose, genre un mois avant le lancement par exemple. Et si tu donnes de la valeur comme tu le fais dans tes vidéos dans un truc gratuit en plus, tu vas prendre plus de mails, les gens seront infiniment plus reconnaissants et achèteront beaucoup plus. Donc je suis sûr que si tu fais ça,
Mec, c'est une super idée et tu viens de me donner une giga idée. Mais du coup, je vais pas en parler
Ça
là tout de suite.
marche.
Mais tu viens de me donner une giga idée parce qu'il y avait un contenu qui allait sortir sur ça.
On en parlera sûrement en off, mais ouais, ça fait longtemps
Ouais.
qu'en regardant tes vidéos, je pense à ça et je me dis, putain, mais s'il faisait un lead magnet, il prendrait 15 000 mails de plus et les gens seraient plus heureux. Et après, lors de son lancement de produits payants, eh ben ça se voit direct sur les ventes, tu vois. Ça se voit direct.
Ok,
Donc,
c'est super intéressant.
ouais, voilà, bah, trop cool que ça t'ait donné une idée, du coup. C'est cool. Est-ce que, alors, dernière question par rapport à Hamza, et après on passera à autre chose.
Ouais.
Est-ce que tu appliques la majorité de ces conseils un peu hardcore au niveau de la testo? Alors ça, je sais que ça
Ah.
m'avait trigger de ouf avec un de
Ouais.
mes potes. Quand on avait vu la liste des 21 trucs qui influaient sur la testo, on s'était dit, mais what the fuck, genre c'est vraiment hardcore. Est-ce que tu fais attention, genre par exemple
Je
à...
fais très attention. Alors, pas de fou. Je fais très attention à ça. J'ai pas fait de test. Je sais pas, je suis à combien de testos. J'ai ma gourde en métal à la con.
Ok.
J'ai, je fais attention, je bouffe les noix, je fais enfin des
Des
oléagineux, je
oléagineux,
crois
ouais,
que c'est comme ça
ouais, bien
que,
sûr.
ouais. Je fais attention vraiment à ce que je mange, à ce que je bouffe, à ce que je mange, à mon sommeil surtout. C'est la partie que j'ai le plus galéré, mais que ça y est, je commence à masteriser. Je bois, alors. C'est complètement con parce que là depuis tout à l'heure tu me vois, enfin les gens qui voient, toi tu me vois pas, mais là, à la caméra je bois dans une bouteille en plastique à la con. Mais normalement je bois tout le temps dans cette gourde en métal qui va pas me niquer ma testo. Mais oui, très très intéressant ce qu'il raconte et je fais très gaffe à ça, oui.
Ça marche.
Pas tout. Là tu vois tu me demandes de citer les 21, je les ai pas. Les idées principales qu'il a répétées dans plein de vidéos et tout, c'est des trucs que j'applique au quotidien.
Ça marche. Mais moi, quand j'avais vu la liste, ça m'avait trigger de fou. Enfin, genre, il y avait même un truc dans la liste, c'était éviter de fréquenter des filles qui mettent du parfum. Je me suis dit, mais ça va jusque-là? Genre, c'est dinguerie.
Oh mon dieu.
C'est dinguerie, tu vois. Donc, du coup, tu mets pas de déo.
Ça,
Ouais.
non, je mets du déo.
Tu mets
Non, je mets du déo. C'est ça, il dit que ça fait baisser la
ok.
testo?
La plupart, après, je pense qu'il y a des déos à la pierre d'Alain où il n'y a pas de conneries dedans qui font pas baisser. Hein. Je pense qu'il y a
Ok.
des déos normaux, mais.
Ok.
Donc, ouais, là, il y a. Ok, bah, c'est cool de savoir que tu appliques ça, mais il y avait certains conseils, je sais pas si je pourrais les appliquer tout de suite. Hein. Franchement,
Mon dieu.
il y a des trucs un peu hardcore.
Genre quoi?
Bah, je t'ai dit, le fait de... comment ça? Ah oui! Alors ça, c'était une dinguerie. Ne pas embrasser de meuf qui met du maquillage. Mais c'est un truc de fou. Enfin, en fait, quelle meuf sur Terre ne met jamais de maquillage, tu vois? Parce que c'est vrai, factuellement, le maquillage, le parfum, tout ça, même, et je crois même qu'il en avait parlé, et ça me fout la haine, c'est que même dans, et je suppose que t'as une skincare routine aussi, t'en parles dans certaines vidéos, même dans les...
Très légère, très tranquille, mais ouais, j'en ai une.
Ouais, bah même dans les produits qu'on met pour nos skincare d'influenceuse beauté qu'on est, et bah dans ces produits-là, il y a des dingueries niveau hormonal, tu vois.
C'est
Ouais, bien
vrai?
sûr, c'est pas des...
Ah bon?
Bah même je sais pas quelle marque tu utilises, mais si c'est CeraVe ou des marques comme ça, c'est pas naturel les produits dedans.
Non, non, j'utilise des trucs de la pharmacie, moi.
Ok. Bah
Pas grande surface.
ça marche. Du coup je vais essayer d'optimiser tout ça, mais il y a quand même des trucs qui me paraissent compliqués à faire, tu
Ok. Très
vois.
drôle.
Ouais.
Après Hamza, tu vois, je sais pas, je connais pas la preuve scientifique de tout ça. Il faut qu'on regarde tout ça.
Ouais.
Mais il dit quand même des trucs parfois,
Ah
genre
mais oui, mais...
comment grandir, fais du squat. J'étais en mode bon,
Bien sûr.
à un moment, bon.
Bah oui, non mais après, il y a quand même... Tu sais que... Enfin, moi, je trouve que c'est ultra broscience, mais moi, ça me fait rire. Hein. Je suis un enfant d'internet.
Moi j'aime bien aussi, mais moi aussi, moi
Je suis
aussi.
un enfant d'internet. Hein. Tout ce qui est broscience, ça me fait trop rire, tu vois. Et puis, il y a certains trucs qui sont réellement vrais. Genre, par exemple, t'en
Oui.
avais parlé dans une de tes vidéos, et ça, j'ai vu ça cette année, en fait, sur tout ce qui est... Tout ce qui est avoir une barbe, une moustache, des poils faciaux,
Ah
bah
oui,
prends tes
c'est
responsabilités, enfoiré, il va
ça.
payer un loyer et tu vas voir que t'auras une barbe, tu vois.
Mec, j'ai eu ma barbe quand j'ai commencé à faire des trucs sérieux.
Ouais?
C'est ça, j'en suis sûr. Ça, c'est certain.
Ah oui, c'est sûr et certain.
Mais très vite en plus, mais genre vraiment super vite. C'est pas comme si genre je commençais un peu à en avoir, c'est vraiment en 2 mois je suis passé de imberbe à barbu.
Je sais, ça m'a fait exactement la même chose il y a 2 mois. Bon, là, j'ai rasé, j'ai laissé que la moustache et le bouc, mais tout, j'avais aucune implantation de poils de barbe. En 2 mois aussi, 2, 3 mois, en commençant à faire certaines choses, donc je comprends pas trop, tu vois. Mais pour moi, il y a des conseils broscience comme ça qui marchent vraiment.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Au niveau du business, d'ailleurs, il y a un truc qui m'intéressait. T'avais parlé sur YouTube du fait que t'as dû prendre un comptable à 19 ans, donc c'est très stylé. Est-ce que tu pourrais... Parce que j'ai pas encore dépassé le stade de société, je fais pas encore 60 000 par an, du coup. Est-ce que...
Ah mais c'est pas une histoire de 60 000 par an, c'est une histoire de charge, surtout de frais.
Ah ok, donc t'as pas pris un comptable pour parce que t'étais passé en
Après,
société.
en vrai, je suis bien parti pour faire plus de 60 000 par an. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, je les ai pas fait. Mais pourquoi faut un comptable pour la société? Parce que déjà, quand t'as une société, t'as besoin d'un comptable. Tu vas pas faire toi-même les trucs genre compte 502, mes couilles, tout ça, tu vois.
Ouais.
C'est pas à toi de le faire. Personne ne fait ça lui-même. Donc tu prends automatiquement un comptable dès que tu déclares en société. Mais le vrai avantage de la société, c'est surtout que t'as un compte de ta société, un compte bancaire. Donc tu t'es imposé sur ce qui reste sur le compte bancaire. Tout ce que tu payes avec ta société, ça s'appelle des frais de société. Tes monteurs, c'est des frais de société. Là, le mec que j'ai payé pour faire le site de ma vidéo payante, c'est des frais de société. Ça veut dire que je suis pas imposé sur mon chiffre d'affaires, je suis imposé sur mon bénéfice. Tu vois, imagine, t'es en auto-entreprise, t'as fait une vidéo, elle t'a coûté 500 euros parce que t'as payé des monteurs, des mecs comme ça. La vidéo, elle t'en a rapporté 1000.
Ouais.
En société, t'es imposé sur 500 euros. En auto-entreprise, t'es imposé sur 1000 euros. Tu comprends ce que je
Ouais,
veux
bien
dire?
sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais
Ah, ok.
je le savais, mais juste, je savais pas pourquoi en fait t'avais dû prendre un comptable, mais juste maintenant je m'en rappelle, c'est que en fait tu dois avoir, et je l'avais oublié, mais ça me paraît évident, tu dois avoir beaucoup de charges en fait, donc c'est logique.
Ouais, c'est. Ouais, en gros.
Ok.
Et en fait, quand t'as une société, je pense que c'est bête de pas payer là quelques centaines d'euros par trimestre que va te demander le comptable. Tu vas perdre tellement de temps lorsque tu vas déclarer. Le mec s'occupe de tout. T'as juste à tenir tes factures, quoi, tu vois, et lui envoyer. C'est tellement plus simple.
Clairement, bah, j'ai réfléchi aussi beaucoup par rapport à l'avenir. Et d'ailleurs, par rapport au fait de déléguer, est-ce que tu as toujours été dans une optique, parce que je pense que le fait que tu aies employé des monteurs tôt, que tu aies différé ta gratification, entre guillemets, en te payant pas dès le début, parce que
Ouais.
alors ça, c'est très dur, et
Ah, ça,
c'est un
c'est
truc sur
vrai.
lequel, mais mec, j'ai tellement de mal, surtout que, bah, pff, Le lifestyle parisien, moi j'aime trop sortir, tout ça, les restos, les
Ah ouais.
machins. Et quand je suis passé de aucun revenu à, bon, cette année en moyenne j'ai dû être à 2 000, un truc comme ça, 2 000 un peu plus. Quand je
Ouais.
suis passé de zéro à ça, mais directement, et ça c'est un truc que je regrette, genre j'ai pas,
T'as flambé.
bah à mort. J'ai pas assez investi, genre je payais un monteur, mais pas assez cher. J'ai pas assez investi dans des caméras, dans des micros. Je me suis pas dit, je vais commencer à payer des Media Makers. Pour que, je sais pas moi, pour tout optimiser, tu vois, j'ai profité de l'argent que je gagnais tout de suite, en tout cas en majorité. Et ça, là, cette mentalité stick or twist, pour le coup, je sais pas bien la respecter encore. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour réussir à twist, justement, et à pas flamber le premier argent, tu vois, parce que c'est ultra difficile. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de mal, tu
En fait, c'est différent parce que moi, j'avais de l'argent de côté.
vois. Ok.
J'avais quand même de l'argent de côté de base. Parce que, comme je t'ai dit, hein, au lycée, je stackais l'argent de mes montages, je faisais des trucs et tout. Donc, j'avais quand même pas mal d'argent de côté. Donc, j'ai pu me permettre de balancer, tu sais, de me dire, OK, imaginons que je fais une chaîne YouTube, je peux perdre 2000 balles.
Ouais.
Tu vois, genre, je peux faire ça et on voit comment ça roule. Également, enfin, tu vois, si ça marche pas, je vis chez mes parents, je retourne vivre chez mes parents. Tu vois, en fait, l'environnement était très approprié dans mon cas, et je pense que c'est l'environnement qui va beaucoup jouer. Est-ce que tu arrives à te dire que tu peux retourner vivre chez tes parents? Moi, c'est le cas d'ailleurs, c'est le cas dans ma tête. Est-ce que tu peux te dire que tu peux ne voir personne pendant 6 mois? Moi, j'avais pas de potes. Du coup, c'est tout simplement ce que j'ai fait quand je suis retourné à Nancy. C'est vraiment l'environnement qui va jouer là pour le coup, je pense. Et c'est aussi du ressort des gens de faire en sorte que l'environnement soit approprié, de parler avec ses parents, de pas ne plus leur parler. Moi, mes parents, pendant 2 ans, je les ai quasiment pas vus. Enfin, je leur parlais pas en fait. Et c'est un truc que je regrette et que maintenant je suis trop trop heureux de parler avec mes parents. Avant, mes parents, je trouvais qu'ils étaient bêtes et tout, mais en fait, ils sont super intelligents. Il faut essayer de se set up l'environnement où tu te dis, dans le pire des cas, je suis pas à la rue,
Ouais.
et t'y vas à fond. Tu te set up l'environnement où tu te dis, dans le pire des cas, je suis pas à la rue, et t'y vas à fond.
Ça marche. Ouais, c'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de mal. Dans mon cas, mes parents étaient vraiment pas d'accord avec mon projet. Et du coup, j'ai.
Ah ouais, tu
Ouais,
m'étonnes.
je crois pas te l'avoir dit, mais j'ai bougé de Paris à Tours, en fait, pour faire ma coloc. Je suis allé à Tours.
Ouais.
Et donc, du coup, si ça marchait pas, je pouvais pas revenir chez mes parents. Je pouvais pas en fait. Donc je
Ok.
pense que en termes d'environnement, je devais pas être au max dans ma tête. Mais bref, j'ai pas su investir
Ouais.
l'argent comme il fallait, je trouve. Donc c'est un truc sur lequel je dois vraiment essayer de bosser.
Ok, je vois très bien.
Une petite question qui m'est venue aussi en parlant un peu d'investissement. Du coup, est-ce que tu commences déjà à investir en bourse, en crypto? Est-ce que tu es renseigné sur le sujet?
Crypto, très
Ok.
peu. Bourse, très peu. Enfin, en fait, tu sais, je mets de l'argent sur des comptes
Un livret A?
d'investissement. Non, non, genre des comptes d'investissement. Je sais pas si je peux le dire. Tu sais, les règles en France ont changé, mais bref, j'utilise un service qui s'appelle Yomoni,
Ouais.
et tu mets de l'argent, de la thune dessus, et t'es à genre 7-8% par an. Tu sais, c'est des mecs qui font des trades, des trucs comme ça.
Ouais, je vois très bien ce que c'est. Bah, c'est en gros des traders qui prennent leur commission sur ton argent pour
C'est
trader.
ça. C'est ça. Enfin, c'est une assurance vie en gros.
Ouais. Ok.
Et je fais ça. Également, là, j'économise pour m'acheter un garage. Voilà.
Ouais.
J'ai envie de m'acheter un garage pour avoir un petit pied dans l'immobilier, quand même. Tu vois, avoir ce truc-là qui bouge pas en valeur. Et crypto, j'ai genre 100 balles ou 200 balles en crypto. Il faut que je m'y intéresse. Je sens que je vais pas m'y intéresser et qu'ensuite, quand ce sera la folie, tu sais, genre tous les 5-6 ans, c'est la folie en crypto.
Ouais.
Quand ce sera la folie, je vais m'y intéresser un peu trop tard et je vais pas anticiper le moment. Donc, il faut que je commence à. Je pense que là, si les gens doivent retenir un truc de ce podcast, intéressez-vous dès maintenant aux cryptos. Je pense que c'est super important maintenant parce que le marché, il est tout plat. Et comme ça, vous saurez voir venir les opportunités, genre un mois avant tout le monde. Il faut vraiment s'intéresser aux cryptos, je pense, actuellement. Genre, c'est sûr.
Ok, ouais, bah c'est un. C'est un super conseil que tu donnes. D'un côté, je trouve ça aussi très dur parce que
Ouais, tellement.
je trouve ça très dur. Un, la technique en elle-même, les cryptos, c'est ultra complexe. Et je trouve ça
Ouais.
aussi dur de s'y intéresser quand on n'est pas encore là où on veut être dans son business de base. C'est-à-dire que,
C'est
ouais,
sûr,
c'est
c'est
ça. Parce que
sûr.
la crypto, le levier que tu peux avoir, c'est très intéressant quand tu as un business qui tourne et que tu as un cash flow qui est ultra positif tous les mois. Mais imaginons que tu sois monteur débutant, copywriter débutant, je n'ai aucune idée, et que tu fasses encore 200, 300 balles par mois. C'est compliqué de prendre sur soi et de se dire, je vais m'intéresser à un truc qui va sûrement marcher quand j'aurai 4, 5, 6 fois mes revenus actuels, tu vois. Donc,
Bah, c'est vrai, c'est sûr, c'est chaud, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'il faut le faire, mais qu'en fait je l'ai toujours pas fait. Mais d'un point de vue investissement,
ouais.
pour moi, c'est le meilleur truc. Juste mieux connaître que les gens. Dès maintenant, tu vois, juste mieux connaître ça que les gens, c'est genre tu une garantie, tu vois. Je veux pas te conseiller d'investissement évidemment, mais n'importe qui investit sur Bitcoin, genre maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir un autre bull run, tu vois, il va forcément être
Bien,
positif à un moment.
bien sûr.
Donc je pense qu'il faut quand même s'y intéresser. Et c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est désastreux qu'on n'ait pas d'écosystème qui soit bien fait en crypto. C'est-à-dire, genre, t'envoies ta thune sur la mauvaise adresse, la thune est perdue. Genre, c'est logique, tu vois, d'un point de vue technique. Heureusement qu'il y a ça, sinon le réseau serait pas sécurisé et tout, bien sûr. Mais maintenant, il manque les putains d'interface, les mecs qui gèrent tout le réseau, des couches entre tout ça, qui sont là pour valider ou non le fait que la transaction est possible. Genre, tu sais, t'envoies un centime sur le truc, un truc qui te le fait en automatique. Il envoie un centime sur le truc, voit si ça marche ou pas, et direct, avant que tu puisses envoyer toi la thune que t'as prévue, il te dit non, c'est pas possible, tu peux pas envoyer sur cette adresse. Bah, ça n'existe pas. Là, tu ouvres MetaMask, tu tapes une adresse qui n'existe pas, tu envoies de la thune est perdue à jamais. Je trouve ça fou.
C'est vrai.
Il faut que l'écosystème, l'environnement, les mecs en école d'ingénieur, là, ils fassent un vrai truc. Est-ce que ça ressemble vraiment à quelque chose? Sinon, tu pourras jamais faire évoluer tout ça si c'est aussi la rue, tu vois.
Genre, la crypto, pour l'instant, tu trouves ça encore trop brouillon, trop ghetto au niveau des infrastructures,
C'est trop ghetto, il y a trop d'arnaques faciles de tomber dedans. N'importe qui commence à s'intéresser à la crypto, je sais pas, 80% de chances de se faire arnaquer sur un truc, c'est la jungle, c'est le Far West. C'est pas encore ça, tu vois, niveau démocratisation. Il manque les infrastructures.
Ouais, bah franchement, c'est des problématiques auxquelles je suis pas encore confronté, mais ouais, en discutant avec des gens un peu dans le milieu, j'en prends conscience. Par rapport à tout ça, justement, puisqu'on a parlé de plein de trucs, on a parlé de sport, on a parlé d'entrepreneuriat, de YouTube, de tout, de plein de trucs. Au milieu de cette routine qui est, je pense, bien remplie, comment tu t'organises, comment tu planifies ta vie, comment tu arrives à deep work correctement, qu'est-ce que c'est un peu la routine de Loan LV, tu
Je me lève à 8
vois?
heures, je m'endors à minuit,
Ouais.
j'ai deux séances de deep work de 1h30 à 2h, une le matin, une l'après-midi. En fait, je regarde ma fiche qui est juste là, qui me dit littéralement ce que je vais
OK.
faire. Je fais du sport tous les jours, pas tous les jours, mais on va dire presque 7 jours sur 7.
OK.
C'est même pas 6 jours sur 7, c'est plus proche de 7 jours sur 7 que 6 jours sur 7. Et j'essaie de sortir tous les jours, de parler à des potes tous les jours, de voir des gens. Voilà.
Ça marche.
De rigoler avec des amis, tout ça. Et ma journée, elle est finie à 18h. C'est-à-dire que de 18h à minuit, j'ai normalement fait tout ce que j'avais à faire.
Ok, donc c'est-à-dire à 18h, t'as déjà calé le sport, le travail, les repas, tout.
Non, pardon. Non, en fait, c'est faux. À 18h, je commence le dernier truc, c'est-à-dire je fais le sport. À 18h, c'est l'heure de mon sport, et après le sport, c'est fini.
Ouais.
Donc à 19h, c'est fini.
Oh putain, c'est des séances rapides de ouf, du coup.
Ouais, mais en fait, je fais un split.
Ok.
Je suis en split, c'est-à-dire, je fais trois exercices par séance et des abdos.
Ok, ça marche. Bah d'ailleurs, ça, c'est un truc, je sais pas si tu as pensé, mais moi, genre, le fait, tu parles du fait que tu fasses de la muscu, tu as développé un bon physique avec ça et tout, mais t'en parles pas en détail sur l'OAN élevé, je trouve. Et est-ce que
Ouais.
t'aurais déjà pensé à montrer des entraînements, je sais pas, des choses comme ça, ou pas du tout? Ça rend.
C'est pas prévu pour
Ok.
l'instant, mais c'est pas prévu. Mais si j'ai une bonne idée de vidéo à partir de ça, ouais, je pourrais en
Ok.
faire. Moi, j'adore le street. Si un jour je dois faire une vidéo sport, ce sera vraiment street, tu
Ok.
vois. Je kiffe. Je suis pas un pro, En street, loin de là, mais je suis très bon pour expliquer aux gens. Tu vois, genre, quand je vois un mec qui galère à faire son muscle-up, je vois exactement ce qui lui manque, en fait. Quand je vois un mec qui galère à faire son front lever, je vois exactement ce qui lui manque parce que moi-même, j'ai galéré à avoir le muscle-up, j'ai galéré à avoir le front lever, j'ai pas galéré à avoir le drapeau. Non, le drapeau, je l'ai eu rapidement. Mais plein de fi les figures là, j'arrive à bien à expliquer aux gens comment les faire. Donc, je pourrais peut-être un jour faire une vidéo street workout.
Ok, bah c'est lourd. Je pense que, et puis c'est une caractéristique qui te définit très bien, et je le sais, c'est que t'as un esprit analytique de ouf. Je me doute bien que quand tu vois un muscle up, tu te dis, ah bah il manque l'explosivité au niveau de la traction, tac, tu sais analyser pourquoi et
C'est
tout, donc
ça,
ouais.
exactement. Exactement. Ouais, c'est souvent ça
C'est souvent
d'ailleurs.
ça d'ailleurs,
C'est le mec commence comme une traction, sauf qu'un muscle up, c'est pas une
ouais.
traction. C'est pas une traction qui va plus loin. Enfin, bref.
Ouais. On s'est compris, on s'est compris ça.
Oui, on s'est
On s'est
compris.
compris sur ça. Au niveau des... D'ailleurs, comment tu gères ça? Parce que je fais aussi de l'anglaise et en termes d'interférence avec la muscu, je trouve ça hardcore.
Ouais,
La boxe, soit haut du corps, comment tu gères ça?
je le gère très mal. J'ai la main qui est cassée et j'ai le pied qui est cassé. Je le gère extrêmement mal. Ça fait super longtemps que j'ai mal à plein d'endroits et qu'il faut que j'aille soigner tout ça, mais que j'ai pas pris le temps d'aller chez le kiné pour faire ça. Mais je gère très très mal. C'est hyper incompatible
Bien.
la boxe et la
Bien
muscu. Enfin,
sûr.
je
Ah oui, non, mais
trouve.
je suis totalement
C'est
d'accord. C'est les...
en plus. En boxe, tu dois être le plus léger possible. En muscu, tu dois être le plus, enfin lourd. C'est pas le but. Enfin, le plus lourd, sec
Ouais.
possible. C'est deux philosophies différentes et faut choisir quel est ton truc préféré, en fait. Faut choisir quel est ton truc préféré parce que tu vas faire les. Si tu fais les deux en même temps, tu vas faire les deux moyennement. Il faut y aller à fond plus dans l'un que dans l'autre, je pense. C'est-à-dire, tu peux pas combattre, je pense, genre vraiment combattre, et être vraiment chaud en muscu. Pour moi, c'est assez compliqué. Enfin, je sais pas si toi tu fais ça, mais je trouve c'est dur, en tout cas pour moi.
Non, depuis que j'ai commencé l'anglaise, j'ai vraiment mis de côté la muscu, genre vraiment beaucoup. Bon, après, ça me fait chier parce que physiquement, je suis moins esthétique qu'avant, je suis moins balèze qu'avant, mais du coup, au niveau du cardio, de l'anglaise, etc., c'est mieux. Dans une vidéo, tu avais dit que tu considérais qu'à partir du moment où tu montais sur un ring pour un combat officiel, ça changeait beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà fait,
Ouais, tu l'as fait
pas
ça?
encore, du coup, c'est prévu pour cette année, est-ce que tu l'as déjà fait?
Moi ouais, j'ai déjà fait. Alors c'était pas officiel dans le sens où c'était pas prévu, mais c'était un vrai gala en fait. C'était un vrai gala où il y avait des gens qui venaient combattre sur les rings, en gros.
Oh.
Mais c'était pas moi qui était programmé.
Ok, mais du coup c'était un combat où les gens te regardaient, il y avait du public, tout ça.
C'est ça, c'est ça. Quand je Et j'en ai un autre qui est prévu, mais un vrai gala où c'est moi qui suis programmé là, qui est prévu pour je sais pas quand. Enfin, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est tellement tout le temps décalé, ça me saoule. Ça fait depuis 10 ans que je dis que je vais combattre en Hollande. À chaque fois, c'est décalé, ça m'énerve. Mais je vais combattre en Hollande un jour, sûrement, mais ça fait que de se décaler et voilà. Et là, j'ai pas de date.
Ok. Et ça t'intéresserait de te professionnaliser dans ça? Je sais, je connais pas ton niveau en précision, mais tu peux...
Ouais, j'aimerais bien. Franchement, si un jour YouTube ça me fait chier, il y a un seul truc que je ferais de ma vie, ce serait combattre, je pense. Donc,
Ok.
franchement.
Et c'est des combats de taille que tu fais du coup, c'est pas...
Bah c'est taille kick, c'est taille au kick en
Taille ou
fait.
kick? Ok.
Taille au kick et même ça peut être full contact aussi. En fait, je fais. Si c'est taille, kick ou full contact, je vais accepter. C'est en gros.
Ça marche. Et t'as jamais fait un combat juste anglaise du coup?
Non. Bah, j'ai déjà fait des sparring anglaises, mais j'aime bien les coups de pied.
Ok.
Donc c'est vraiment mon truc préféré, les coups de pied.
Ok. Ça va.
J'aimerais beaucoup faire du taekwondo.
Taekwondo,
Pour
au niveau des coups de pied, ouais, c'est une dinguerie.
faire des beaux coups de pied, c'est un truc que j'aimerais vraiment avoir, les coups de pied taekwondo.
Et dans une vidéo, tu avais dit un truc qui m'avait surpris, parce que moi, je suis un grand fan de MMA. Et donc, quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, je regardais les débuts de l'UFC. Et y a un
Ouais.
combattant qui m'avait tapé à l'œil. Et je crois que ce mec, c'est ton coach. Il s'appelle
Orlando?
Orlando, ouais.
Ouais,
Et ça,
exactement.
c'est
C'est mon
bah,
coach.
ça, c'est une dinguerie que ce mec te coach déjà.
Ouais. Ouais.
Comment tu l'as rencontré? C'est quoi les bails un petit peu?
Alors, Orlando, faut savoir qu'il a un parcours très spécial. Orlando n'est pas français de base. Orlando est né au Suriname, c'est-à-dire la Guyane hollandaise. Il est parti vivre en Hollande. Il a fait des trucs en Hollande. Bref, il a combattu, il a fait des trucs. Il est parti. Tu connais Ramon Dekkers?
Pas du tout, pas du tout.
Bon, en gros, avec tous les meilleurs boxeurs hollandais de l'époque, dont Ramon Dekkers faisait partie, c'était genre, c'est une légende de ouf ce mec-là. Ils sont partis en Thaïlande pour aller directement sur le stade, le gros stade connu, enfin le gros là où il y a les combats très connus en Thaïlande qui s'appelle Lumpini. Il a été là-bas, il a combattu tous les Thaïlandais et en gros c'est une armée de boxeurs hollandais qui sont allés combattre les Thaïlandais.
OK.
En Thaïlande, il a rencontré une meuf qui est aussi une championne de, je sais plus, kick, je crois. Il a rencontré une meuf qui était championne de kickboxing, qui vivait en France, à Nancy, et ils se sont aimés, en fait. Et du coup, lui est parti en France pour vivre avec elle, donc à Nancy. Faut savoir qu'au même moment, ma mère était en train d'immigrer en France. Donc ma mère, elle avait, je sais plus quel âge, peut-être 13 ou 14 ans. Et mon oncle, donc qui immigrait avec ma mère, mon oncle, lui, il était fan de Kung Fu. Et du coup, il s'inscrit au Kung Fu. Il devient très très fort au Kung Fu. Il devient champion de France de Kung Fu. Et un jour, il en a marre du Kung Fu et il veut faire de la boxe thaï. Donc il sait qu'à Nancy, parce qu'ils ont immigré à Nancy, il sait qu'à Nancy, il y a le coach Orlando, le Orlando Vitt, qui était un des plus grands combattants à boxe thaï, et effectivement il a fait l'UFC. Il sait qu'il est là-bas et du coup il va le voir et il lui demande s'il peut s'entraîner avec lui. Donc à ce moment-là, mon oncle est jeune, il a 20 ans, tu vois. Et Orlando dit, on va te tester. Du coup, ils font une grosse phase de test de 2 semaines. Au final, mon oncle se fait garder par Orlando, si bien que mon oncle en fait devient quasiment le seul élève d'Orlando.
Ok.
Orlando ne fait que entraîner mon oncle. Ils font ça quelques années. Mon oncle devient triple champion du monde, 2 fois en kick, 1 fois en thaï.
Oh, c'est une dinguerie ça.
Et ouais, exactement. Et du coup, l'année dernière, quand j'ai, du coup, l'année dernière, quand à Noël, mon oncle. Enfin, l'année dernière à Noël, il y a 2 ans à Noël, Noël 2022, je parle, ou 2021 même. Non, Noël 2021, pardon. Noël 2021, mon oncle m'inscrit au cours d'Orlando, privé. C'est-à-dire vraiment, c'est un cours très très privé où il y a genre 3-4 personnes maximum en permanence et je me compte dedans. Et je compte Orlando dedans. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup. Et de fil en aiguille, bah du coup je suis devenu au club, mais qui n'est pas un vrai club en fait. Si tu tapes club de boxe Nancy, tu verras pas le club d'Orlando. En vrai, c'est genre une association. Mais bref. Et du coup, maintenant je m'entraîne avec lui. Et c'est comme ça. Voilà l'histoire en entier.
Ok.
C'est la même histoire que Adonis Creed. C'est la même histoire. Il entraînait son père. Il est allé voir le mec et voilà. Du coup, aujourd'hui, il a 60 ans à Orlando, mais il continue d'entraîner.
Ok, bah je me disais que ça commençait à me faire penser un peu à Denis, tout ça, mais tu l'apprécies.
Oui, c'est la même histoire.
Ok, dingue, parce que pour ceux qui le savent pas, t'es d'origine iranaise, si j'ai pas de bêtises.
Iranienne, ouais.
Iranienne, je dis une dinguerie, ok. Et ouais, bah du coup, à peu près le même délire. Moi, je suis d'origine algérienne, du coup, ma mère a
Ok.
immigré à 13 ans aussi, c'est la même chose.
Ouais, ok, ah ouais, quand même. On a plein de points
On
communs, c'est
a
fou
beaucoup de points
ça.
communs pour le coup. Entre le street workout, la licence Matinfo à Paris et les
Ouais.
origines arabes, ça fait beaucoup de points communs.
C'est
Ouais.
fou.
Mais ok, bah trop intéressant. Et du coup, tu kiffes de ouf t'entraîner avec lui, tu progresses vite, je suppose.
Ouais,
Ouais.
tu progresses extrêmement vite. Je progresse aussi très bien avec mon oncle parce que je fais aussi des sparring avec mon
Ouais.
oncle, sans Orlando, où il va me donner des feedbacks en permanence. C'est comme ça que tu deviens très bon en sparring. C'est quand tu spares contre plus fort que toi, donc littéralement champion du monde, que tu te fais défoncer ta mère. Et que entre chaque round, il te donne des feedbacks.
Ouais. Ok.
Ça, c'est comme ça que tu deviens très bon en boxe aussi.
Ça, moi la taille, ça me tente de ouf. Je sais que comment ça s'appelle, pour le street et pour certains autres trucs, je vais être amené à bouger à Nancy. Si un jour t'es chaud de faire un sparring en taille où
Ah
tu me
ouais,
montres un. Ah,
complètement,
je serais
complètement.
super chaud de tester ça.
Tu m'envoies un message quand tu passes à
Bah,
Nancy, hein, y a
y a
pas de
pas de souci,
souci.
bah, ce serait avec plaisir, ce serait super cool. Les coups de pied et les coups de coude, ça me fait très peur.
Oh non, mais ça, tu sais que pendant, j'allais dire ça, on fait pas en sparring.
Ouais.
Mais, enfin, les coups de pied, si, mais les coups de
Ouais,
coude,
j'espère
non.
bien.
Je te jure que c'est vrai. Donc, je t'avais dit que j'avais déjà fait des sparring anglaises contre des potes, parce que c'est des potes qui veulent pas faire de la taille, parce qu'ils aiment pas utiliser leurs jambes. Donc, contre eux, je fais de l'anglaise.
Ouais.
Et à un moment, par réflexe, il y a le coude qui est sorti, j'ai envoyé le coude dans la tête du mec. Bon, j'ai ralenti au dernier moment, genre pour que ça fasse pas mal. Mais vraiment, par réflexe, j'ai envoyé un coude en anglaise.
Un coup. Ouais, non, franchement, sachant que je suis un. Bah, moi, je suis un mec de l'anglais, je suis souvent au clinch, je suis
Oui.
souvent proche et tout. Et donc, tu vois, je suis à l'aise dans le fait d'être au corps à corps parce que je sais qu'il y a, au maximum,
Ouais.
je me prends une patate. Mais un coude, c'est une autre
C'est
histoire.
ça. C'est ça. Non, mais. Ouais, et puis, si tu fais de l'anglaise,
Ouais.
tu vois, enfin, je pense que tu sais, hein, mais c'est quand même super différent de la taille dans le
À
sens où
mort.
tu vas devoir beaucoup moins baisser la
Ouais,
tête.
je sais. Je...
C'est vraiment. Les esquives, c'est millimétré. C'est très léger, les
Ouais,
esquives.
on me l'a dit, j'ai déjà fait des sparring en anglaise, du coup, contre des mecs qui faisaient de la taille. Ils étaient très, très étonnés de la façon dont je me baissais pour faire mes esquives
Ouais.
latérales, tu vois. Et je pense que c'est
Ouais.
surtout parce que je pourrais pas me permettre de me baisser autant parce qu'il y a le genou qui arrive vite, tu
Ah, le genou, le coup de pied.
Ouais.
Ouais,
Et,
complètement.
en taille, il y a des front kicks en plus, je crois.
Bien
Ah,
sûr, bien
putain, mais
sûr.
qu'est-ce que c'est flippant!
Les front kicks, ouais, c'est ce qu'il y a de plus flippant dans le sens où ça fait toujours moins mal qu'un coup de coude, évidemment. Mais par rapport à quel point c'est fréquent, c'est beaucoup trop fort, les front kicks. Tu t'en prends un dans le bide, au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut vraiment te faire perdre le round.
C'est ultra flippant. Et moi, j'appréhende aussi, en particulier, ma gestion de la distance. Je sais qu'avec les
Ouais.
pieds, c'est pas du tout pareil.
Tu fais quelle
Je
taille?
fais
Tu fais quelle taille?
1m88. 1m88.
Ok, c'est bon. Bah ça ira pour toi.
Normalement, ouais. Je suis à...
Ouais, c'est la taille qui va. C'est un putain d'avantage en boxe taille,
Ouais.
d'être grand.
Ok.
Parce que c'est toi qui gère la distance. C'est-à-dire, quand tu fais 1m88, ça dépend de ton poids. Tu fais quel
Je
poids?
fais 80 kilos. 80.
Ok, ouais, bah c'est bon, t'es plus grand que tout le monde. Du coup, quand, dans ta catégorie, t'es plus grand que tout le monde. Quand tu fais ce poids-là, tu peux te permettre d'être très loin du mec
Ouais.
et de le camper au coup de pied. Tu peux vraiment te permettre de faire ça. Et c'est le mec qui lui-même doit prendre le risque de venir casser la distance en rentrant, mais genre en mode anglaise, tu vois. Il doit vraiment rentrer en anglaise et venir avec les points. Donc toi, ça te donne un éventail de possibilités. Lui, il a que le choix de rentrer. Et toi, tu peux le maintenir à distance. C'est un gros, gros avantage de faire ta taille.
Ok, bah parce que je savais qu'en taille c'était un sacré avantage, mais tu sais qu'en anglaise pas tellement. Parce que quand tu fais de
Ouais.
l'anglaise contre un petit qui sait casser la distance,
Ouais. Ouais, bah il peut rentrer et il spam
il
le
spamme
bide.
le bide, il spamme le foie, t'as pas les coups de coude au clinch alors que lui il a des bras plus petits que toi, donc ses crochets ils arrivent plus
Ouais.
vite au visage. C'est une bonne galère de boxer contre un petit qui sait esquiver et qui sait venir vite dans ta
Ouais.
garde, tu vois. Mais franchement.
Ouais. Et qui a pas peur de se prendre des coups dans la
Ah oui,
tête.
alors.
Il se prend un coup dans la tête, il s'en bat les couilles, il continue dans
Je
le bide.
déteste ce profil de mec, il m'effraie, je te jure. Les petits tankés musclés qui ont pas peur de se prendre des coups, c'est un enfer. Ouais.
Je vois très
Ouais,
bien.
bah en tout cas, mec, si je passe à Nancy, je t'envoie un message direct et puis on se fera ça, hein, ce sera super cool.
Et bah, carrément, carrément.
Ok. Et on a parlé de plein de choses, de serait de muscu. Il y avait un dernier axe que je voulais aborder avec toi. C'est tout ce qui est l'aspect relationnel, les meufs, hein, on peut le dire.
Ouais.
Je pense qu'on est plein dans cette situation-là à avoir eu un début de parcours d'adolescence difficile avec les meufs. On est des geeks, hein, faut qu'on se le dise.
Ouais,
On
c'est
a beaucoup
sûr.
trop joué aux jeux vidéo pour être à l'aise à 15 ans ou 16 ans avec les meufs, tu vois.
Ouais, c'est
Donc,
sûr.
est-ce que tu peux me parler un petit peu de, je sais pas moi, de ton évolution mentale par rapport à ça? Je sais pas si c'est assez clair comme question.
Ouais, moi je. Bon, c'est le truc cliché que t'as entendu
Ouais.
partout. Mais la vérité, c'est que c'est évidemment pas le focus, hein, les meufs, et que de plus en plus, je me rends compte que tu peux attirer les meufs que tu veux, si tu te focuses pas sur les meufs et que tu te focuses plutôt sur tes objectifs. Je pense que il faut même être tellement sélectif que, enfin, ça dépend ce que tu veux. Tout dépend de, est-ce que tu veux des plans cul pour baiser ou est-ce que tu veux une relation sérieuse. En fait, ça va dépendre de ça. Dans le cas où tu veux une relation sérieuse, selon moi, il faut que tu arrives au point où tu es tellement à fond dans tes objectifs que ça te fasse chier de te mettre en couple. Dans le sens où tu cherches pas de meuf, donc naturellement tes standards pour qu'une fille se mette en couple avec toi, ils sont naturellement très hauts. Tu vois, c'est toi qui mets l'endroit où est-ce que tu places tes standards très haut. Donc, vu que tu es à fond sur tes objectifs et que tu veux penser qu'à ça et que tu veux pas de meuf, si une meuf qui matche pas tes standards vient te voir, qu'est-ce qui se passe? Bah, soit tu l'ignores, soit tu lui dis non, je suis pas intéressé, soit voilà, et la meuf s'en va. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on a une qui matche tes standards? T'as 10 sur 10, mais genre ta définition des 10 sur 10 qui arrive. Je pense que là, ce qu'il faut faire, c'est se demander, ok, est-ce que ça me fait chier de me mettre en couple avec elle? Parce que si ça te fait chier, c'est que c'est cool. Dans le sens où t'es tellement à fond dans tes objectifs que une meuf arrive et elle est tellement bien que tu peux pas l'ignorer en fait, que t'es obligé de tenter un truc avec elle, de te mettre avec, sauf que t'es à fond dans tes objectifs. Donc ça te fait chier, donc t'es en dissonance cognitive, donc t'es comme ça, tu te dis mais putain, pourquoi à ce moment-là, pile quand je devais travailler sur ma chaîne YouTube, pile quand ma chaîne elle a atteint 100 000 abonnés, que je voulais me consacrer à fond, il y a cette meuf qui arrive. Si tu te mets avec, ça veut dire qu'elle vaut vraiment le coup. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça la bonne stratégie à adopter, c'est de pas chercher activement, parce que le principe de chercher activement, c'est que naturellement tu vas baisser tes standards. Si tu cherches activement, tu t'auras plus rapidement une meuf, mais une meuf qui matchera pas tes standards que tu pourras avoir si t'étais à fond focus sur ton travail. La meuf, tu peux être en couple avec, pas être amoureux, pas être même moins attiré par elle. Je sais pas, tu sais, il y a plein de mecs qui sont avec une meuf, qui couchent avec la meuf et qui, pendant qu'ils couchent avec la meuf, pensent à une autre meuf. Mais c'est très, très fréquent.
Bien sûr.
Ça peut t'arriver. Et donc, le bon move, c'est du coup de pas vouloir de meuf parce que naturellement, tes standards sont plus hauts. Alors certes, ce sera beaucoup plus rare. T'en auras moins parce que naturellement, les meufs vont moins voir les mecs que l'inverse. Hein. Donc naturellement, t'auras très, très peu d'opportunités avec les meufs. Quand t'en auras la quasi-totalité du temps, bah, elle vaudra pas le coup. Parce que du coup, t'es trop focus pour se mettre en couple avec une meuf de, entre guillemets, ce niveau, mais c'est toi qui évalue ton échelle toi-même. Donc la meuf, tu vas la refuser, tu vas continuer de travailler, et un jour, éventuellement, tu tombes sur la 10 sur 10 parfaite pour toi, et là, si ça te fait chier de te mettre avec, genre en mode, je peux pas la laisser filer, et je suis obligé de me mettre avec, là, c'est positif. Parce que en vrai, le but à long terme, c'est, enfin, je sais pas, mais pour moi, c'est quand même... d'être en couple et avoir des enfants.
Pour moi aussi, bien sûr. Ouais.
C'est quand même un truc que j'ai envie de cocher. Mais le truc, c'est que c'est pas un but que tu peux accomplir de manière avec du travail, tu vois, genre en mode, ok, je vais aborder tant de meufs cette semaine. C'est pas un but que tu atteindrais comme ça. Je pense qu'il faut attendre la bonne, entre guillemets, parce que certes, c'est long, mais vu que c'est la bonne, si ça arrive une fois, c'est ce que je pense.
Il y a beaucoup de points avec lesquels je suis d'accord avec toi, mais il y a certains trucs qui dans la pratique me paraissent compliqués. C'est le fait d'attendre pour trouver la bonne entre guillemets. Je pars du principe que si t'as peu d'interactions avec les femmes, ça va être compliqué d'être. Ça va être compliqué d'être sélectif parce que tu le sais très bien, quand t'as peu d'affection, peu de présence féminine dans ta vie, à la première occasion venue, on est des hommes, hein, c'est compliqué de maintenir des standards si tu fais face à ça, alors que d'habitude c'est le néant total parce que en fait tu t'attires pas ces opportunités-là. Et d'un autre côté aussi, est-ce que tu seras aussi bon? Alors ça c'est très compliqué, j'ai pas encore trouvé la réponse dans ma tête. Hamza en parle beaucoup du fait de pas aller s'entraîner entre guillemets à reproduire les mauvais patterns avec des meufs qui ont pas forcément les standards que t'aimerais, mais en étant tout à fait honnête, tu seras forcément moins bon en drag, en chat, en présence, en tout ce que tu veux si tu t'entraînes moins qu'un mec qui s'entraîne avec des meufs qui respectent pas ses standards, je pense.
Ouais, mais c'est pas très grave parce qu'au pire tu t'entraînes avec la meuf. Je veux dire, si t'as une opportunité avec une meuf bien, qui voit que t'es un mec bien, je pense que elle est assez contente que tu puisses galérer, que tu t'imagines, tu vas au date et tu rougis. Tu vas au date et t'es gêné.
Ça c'est mignon ça.
Ça montre que t'es pas un player, tu vois. Y a des meufs qui peuvent apprécier ça et tu peux apprendre avec la meuf là, tu peux apprendre à gérer en couple avec la meuf avec qui t'es en couple. T'es pas obligé d'avoir eu des couples avant. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça, ce que dit Hamza là-dessus. D'ailleurs, je le dis moi-même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par rapport au fait de, oui, effectivement, tu peux baisser tes standards si t'as pas beaucoup de meufs que si tu fais l'autiste. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et c'est pour ça que je suis en pleine dissonance cognitive là, parce que,
moi aussi, ouais.
Quelque part, je dis ça, mais c'est parce que je fais l'autiste depuis quelques mois, mais que avant ça, j'allais en soirée, je parlais avec des meufs et j'avais des meufs avant. Et maintenant, je peux me permettre de dire ça, mais effectivement, si un mec n'en a jamais eu, c'est vrai que je peux comprendre qu'il puisse penser
à
ça.
Mort.
Donc, je dirais que, ouais, fais le déjeune un peu. Et ensuite, quand tu te rendras compte que ce sera pas ouf, je sais pas quel est le bon truc. Moi, j'ai envie d'être puritain et de dire, non, attends la bonne et n'essaye pas d'avoir de l'expérience, mais d'un côté, je comprends que ça a aussi des défauts. C'est ça.
Ouais, bien sûr. Bah, d'un côté, c'est, je suis vraiment en dissonance cognitive sur ça et j'ai pas encore trouvé la réponse parce que tous les mecs, et moi y compris, qui pensent qu'attendre la bonne, c'est une bonne solution, bah, au final, quand tu regardes, on n'a pas forcément attendu la bonne et on est allé aussi play un petit peu et puis s'entraîner. On est sorti dehors, on est parlé à des meufs, on a eu des expériences avec des meufs qui sont pas nos futures femmes, tu vois. Donc, et la
vrai.
Plupart des mecs,
mais...
et la plupart ouais. des mecs que je connais de ma génération, qui n'ont jamais eu d'expérience factuellement, et je le sais, ça va être plus dur pour eux de trouver la bonne, parce que même si on dit tu seras pas forcément player avec la première meuf, moi je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'une meuf qui soit ta future femme soit attirée par un petit côté player. Moi je pense que si j'étais une meuf, j'aimerais bien les bad boys, même si j'étais...
Bien sûr, un petit
ouais,
côté,
ouais.
tu vois. Mais je veux dire, en tout cas moi en tant que mec, je sais qu'une meuf qui est une playeuse de ouf,
non, ça m'attire pas.
Ça m'attire pas. Je me dis qu'une meuf qui est gentille, qui a plein de côtés cool et qui a un petit côté playeuse. Vas-y.
Il m'en faut.
Ouais, pourquoi pas.
Il m'en faut, hein, personnellement.
Mais,
une meuf qui est.
Mais un
ouais.
petit.
Ouais. Bah, d'ailleurs, je t'en ai parlé il y a pas si longtemps, mais avec tout ce que t'as à gérer, t'as quand même réussi à trouver une copine, je crois, qui fit tous tes standards, etc. Alors, déjà félicitations, parce que c'est incroyable
fou.
D'avoir...
C'est fou, parce que c'est exactement ce que je t'ai dit, ça m'a fait chier, tu vois, genre, c'est vraiment le moment où tu te dis, je n'ai même pas cherché, en fait, c'est venu, tu vois, je sais pas, c'est le hasard.
Ok, bah, avec tout ce que tu m'as dit, c'est-à-dire tes journées qui finissent à 18h où il reste le sport encore, le fait que tu vas, bah, t'es un jeune homme ambitieux, t'as envie de grow ton business, t'as envie de progresser partout. Comment tu gères ça en fait? Parce que qu'on se le dise, et ça c'est un truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps, je me disais, alors cette année j'étais en dissonance cognitive incroyable, partagée entre mes besoins d'affection féminine et de progresser dans ma vie, et du coup je me disais, faut pas que je trouve une meuf qui demande trop d'attention, sauf que, alors je l'ai appris à mes dépens. Une meuf qui est féminine, qui est vraiment féminine, tu peux pas la voir une fois toutes les deux semaines, tu vois. C'est pas possible. Si elle est indépendante, en tout cas, de mon point de vue, au point de pas te demander d'attention de façon régulière, quand même, c'est assez bizarre. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça, en fait?
Alors, je sais pas si ma meuf est... spécialement très 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 féminine, je sais pas complètement ce que ça veut dire, parce que je trouve qu'il y a c'est pas le bon spectre féminin masculin. Enfin, j'aurai le temps d'en parler dans une future vidéo
que je
ferai. Je sais pas si c'est le bon spectre, parce que le truc c'est que sur certains points on peut dire que quelqu'un est féminin, sur certains points on peut dire que quelqu'un est masculin. J'ai l'impression aussi qu'on confond beaucoup masculinité et testostérone.
Ah bon, bah oui,
quand on parle de ce truc là de fille féminine, bref, j'ai l'impression qu'on mélange pas mal de trucs, mais je vais en parler dans une vidéo bientôt. Et je sais pas si c'est le bon spectre, j'ai plus l'impression que c'est un continuum de plusieurs spectres en 2D, tu vois. Donc je sais pas spécialement si ma meuf est très très féminine, en tout cas elle est très comme dirait l'autre efféminée, tu vois, genre elle est jolie, voilà, tout ça, elle prend soin d'elle, etc. Mais dès le début, je pense qu'il faut se mettre d'accord avec elle. C'est genre dès le début tu lui dis, ok, voilà, on est ensemble maintenant, ça c'est ma vie, c'est globalement ce que j'ai envie de faire, c'est globalement le temps que je peux t'accorder. Si t'es ok, go. Si t'es pas ok, c'est pas au revoir. Peut-être que je peux faire des efforts de l'ordre de quelques pourcents, mais on pourra pas se voir beaucoup beaucoup plus. sais ce que je veux dire? Je pense qu'il faut vraiment se mettre d'accord avec la meuf dès le début, que le deal, c'est que je suis un mec bien. Et en contrepartie du fait que je sois un mec bien, bah, j'ai pas beaucoup de temps. Je pense que c'est ça. Et il faut trouver la meuf qui sera d'accord avec elle. Avec ça, et bah moi, ma meuf était d'accord, donc c'est cool.
Ça marche. Bah, si c'est pas indiscret, c'est la seule question que je te poserai. Tu la vois combien
Ouais.
de fois par semaine?
Je la vois 0,5 fois par semaine. Je la vois 2 fois par mois.
Dingue, et ça arrive à bien marrer. Putain, bah c'est très fort. Ça, je sais que je suis nul à ça. Vraiment, je suis trop nul à ça. La semi-distance, on va dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer. Et aussi, c'est un truc sur lequel j'ai du mal, c'est qu'au début. Alors, parce que ça m'impressionne, c'est très rationnel la façon dont tu l'as fait, et il faudrait que je le fasse, tu vois. C'est que dès le début, même avec l'excitation de la rencontre, tu réussis à
Ouais.
poser directement un cadre, alors que tu sais, au tout début, je t'apprends rien, t'as envie de voir la personne tout le temps,
C'est vrai, c'est
c'est
tellement
très
ça.
dur, tu vois.
C'est tellement ça. Mais moi, justement, j'ai eu la chance d'avoir mon ami Kélian qui m'a. Parce que j'ai pas fait ça au début. Au tout
Ouais.
début, j'ai fait le. Je l'ai joué normal, sur en mode, ouais, j'ai une copine et tout, et
Ouais.
voilà. Et c'est Kélian, très vite, qui m'a dit de exactement ce que je t'ai dit là. C'est-à-dire, dès le début, tu la préviens, tu lui dis, ok, je t'accorde cette quantité de temps dans la semaine, dans le mois. T'es ok, oui, non. Parce que lui a fait ça avec sa copine et il m'a dit, dès le début, fais-le. Donc, j'ai vu ce message, je me suis dit, merde, il a raison. J'ai direct appelé ma meuf, pas du tout naturellement, pas du tout de manière stylée, mais genre, ok, j'ai un truc à te dire, j'ai oublié de te le dire, mais c'est quand même important pour moi, voilà, machin. Elle sait que je fais des vidéos, mais bon, elle est pas à fond dedans, mais genre, je lui dis, voilà, je suis très ambitieux, machin, j'ai des projets, j'ai plusieurs chaînes YouTube, je voudrais. Est-ce que c'est ok pour toi si on se voit moins, parce qu'il faut que je me focus sur mon truc? Est-ce que c'est ok si pendant toute la journée, en fait, bah, je parle pas, tu sais, par
Ouais, bien sûr.
message? Et que éventuellement on peut s'appeler le soir, ça c'est pas un souci. Est-ce que c'est ok? Elle m'a dit oui, parfait.
Okay. Bah, c'est.
Mais effectivement, je l'ai pas fait naturellement du tout.
Ok. Bah, c'est un truc sur lequel faudrait que je bosse, moi, parce qu'au début, l'excitation du début,
Ouais,
ça
tu
me met dans
m'étonnes.
un état où, en fait, j'ai pas envie de. Ça, limite, ça prend le dessus sur mes projets et ça veut peut-être dire que je suis pas assez en place encore dans ma tête. Je pense, mais ouais, très intéressant ce que tu as dit. Il y a un autre truc qui m'a fait tilter quand tu parlais du spectre féminin-masculin. C'est très intéressant, et t'en parlais sur une de tes vidéos où tu disais ne pas penser que c'était aussi mathématique que ça. C'était au niveau
Ouais.
de l'ambition, le fait d'avoir des projets, de s'améliorer. C'est un truc qui est très associé dans la niche Red Pill, la testo, les hommes, vouloir conquérir, etc. Sauf
Ouais.
que, bah, genre, pourquoi les meufs ne pourraient pas avoir les mêmes envies et être des femmes normales, quoi, enfin féminines, etc., qui prennent soin d'elles.
En fait, c'est ça le gros souci de la vision
Vas-y.
masculinité-féminité enfin qu'on a sur Internet, c'est que le problème, c'est qu'il y a des femmes qui sont putain de
Bien
féminines,
sûr.
qui ont, genre, tu sais, en mode coquette, jolie, tu sais, qui vont aller sur Instagram faire des trucs, et voilà, mais qui, d'un autre côté, vont être des putains de
À mort.
businesswomen. Tu comprends? Elles sont beaucoup moins. Elles ont très peu de testo, naturellement, ces meufs-là. Et j'en parlais avec mon pote l'autre fois, il me disait, ouais. Il y a des femmes qui sont plus masculines que des hommes. J'étais en mode, mais on parle de quoi là? On parle de testo? Il y a des femmes qui ont plus de testo que des hommes, ça n'existe pas, tu vois. Et en fait, ça marche pas le spectre, puisque si des fois on dit, ouais, non, mais elle est masculine sur ce point-là, mais féminine sur ce point-là, c'est que de base on n'est pas dans le bon spectre, en fait. C'est que de base c'est pas la bonne formulation. Donc je sais pas ce que c'est. Je vois très bien, bien sûr, qu'il y a une tendance chez les gens en business à être des hommes. Mais c'est pas toujours le cas, et ça n'a rien à voir avec la. Je pense pas que ça ait à voir avec la testostérone. Ça doit avoir un lien avec autre chose qui peut être conséquence de plus de testostérone. Je dis pas que c'est une causalité. Je dis que c'est une comment l'autre chose de causalité.
Corrélation,
Corrélation. C'est une corrélation. Mais il faut pas confondre masculinité et testostérone. Peut-être même qu'on est dont on parle de cette niche, Red Pill et tout, faire du sport et tout, on n'est peut-être même pas dans le bon spectre.
peut-être.
Il y a 20% de meufs qui sont abonnés à ma chaîne. C'est sûr, du coup, que ça fait moins de mecs, mais ça fait quand même 20%. Il y a autre chose. Ou alors, le spectre n'est pas aussi simple que ça. C'est ce que je pense. J'ai pas de réponse définitive, mais c'est pas aussi simple que masculinité, travail, discipline, féminité, amour. C'est, je suis presque sûr que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des femmes super carriéristes qui ont des enfants et qui aiment leurs enfants et qui sont à fond genre dans la famille, dans les enfants.
C'est, je suis totalement d'accord sur ça, mais c'est un truc aussi où j'ai pas encore de réponse. Pour un mec comme Hamza, par exemple, pour lui c'est aussi simple que ça. Pour lui c'est masculin égale
c'est ça,
travail, c'est ça. Travail, discipline, ta, et féminin égale amour, papillon dans le ventre, etc. Tu vois. Donc
c'est je suis de... ouais, il dit ça. Alors c'est pas une vision qui est spécialement toxique.
Non.
Je dis pas que c'est mauvais. J'aime beaucoup Hamza. Si cette vision de la vie, elle te fit, que t'es une fille ou un homme et que cette vision, elle te fit bien, tu l'aimes bien et tu veux faire ta vie comme ça, c'est parfait. C'est une vision qui est quand même vachement positive. Hein. Il dit pas fumer des drogues, il dit pas ce genre de choses. Maintenant, Hamza, il pourrait avoir plein de meufs qui pourraient regarder son contenu mais qui le regardent pas parce que il est trop dans ce truc-là de la masculinité, ce qui veut rien dire. Genre, si tu dis qu'une femme est masculine, de quoi on parle? On parle sur un aspect, on parle. Quel est le truc de la jauge? Parce qu'on parle de testostérone, en gros, c'est ça le truc. Mais ça veut rien dire. Une femme a pas plus de testostérone qu'un mec. Bref, je commence à m'embrouiller dans des trucs, mais comme je te dis, j'ai pas la réponse, j'ai pas ce truc-là. Mais je sais qu'il y a plus que deux énergies, plus que deux polarisations. Il faut voir plus large.
Ouais, c'est un truc qui m'a posé pas mal de questions intérieures en ces moments-là. Mais il y a quand même un pattern que j'ai pu remarquer, c'est que les meufs qui arrivent à prioriser leur carrière, leur job, leur projet personnel par rapport à l'amour, c'est souvent des meufs qui n'ont pas un style d'attachement vraiment anxieux et qui, au final, sont... Est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est pas trop grave de dire ça? Comment je pourrais exprimer ça? C'est plus compliqué en fait avec ces meufs-là qui sont focus autant que toi sur leur projet d'avoir de l'espace mental en fait. Genre c'est vraiment parce que c'est toi qui commences à te poser des questions sur est-ce que la relation elle marche bien etc. pendant que elle pense à ses projets autant que toi si ce n'est plus tu vois. Donc j'ai encore
c'est
super subtil, j'ai beaucoup.
C'est super intéressant, très subtil, ouais. C'est vrai. D'un côté, je te comprends parce que d'un côté, je suis sorti avec une meuf où j'étais comme ça.
Moi aussi, bien sûr.
C'est-à-dire, elle était très carriériste et moi, j'étais mal et tout. Mais d'un autre côté, la meuf avec qui je suis, elle est aussi très carriériste et je suis pas mal en fait. Elle est genre, tu sais, un peu influenceuse et tout. Et elle fait des trucs comme ça. Et je ne suis pas mal vis-à-vis de ça en fait. Donc c'est encore plus subtil que ça, je saurais
pas. Ouais, bah de toute façon, on a je sais pas si t'as eu 20 ans il y a pas longtemps, on a pas encore 20 ans, toi et moi.
Donc... Non, j'ai pas encore 20 ans.
Ouais, j'ai pas encore 20 ans non plus, donc il nous reste du chemin avant de trouver les réponses à ces questions-là, je pense.
Ouais.
Mais non, c'est très intéressant. Il y a un concept aussi dont t'as parlé il y a pas très longtemps auquel j'adhère depuis longtemps, mais j'avais pas mis de mots encore sur la question. C'est le fait de payer à sa copine, à ses parents, pour après avoir la dalle de faire plus d'argent.
C'est fou ça.
C'est un concept de fou, mais qu'est-ce que j'aime bien ça.
Ouais, payer le train à ta copine. Tu vois, genre, je trouve ça fou.
Ouais, et moi vraiment, je supporte plus d'entendre des mecs de mon entourage me dire Alors après, bon, je suis de culture maghrébine, ça, de nature chez moi c'est comme ça, on laisse pas la femme payer, tu vois. Mais. Pour moi, c'est dans la logique des choses, genre.
C'est les gens que t'aimes, tout simplement. C'est ta famille, tes potes.
C'est ça, c'est dans la logique des choses de provide. Et puis même cette mentalité de dépenser pour te forcer à faire plus, mais vraiment, je kiffe de ouf.
Ouais, ouais.
Donc, même t'avais parlé du fait que tu payes des restos à tes parents, il fallait que tu automatises le resto, je te jure, c'est trop drôle.
Ouais, c'est ça. En gros, du coup, c'était hier, moi, le resto avec mes parents. Ouais. Tous les mois, je paye un resto à mes parents.
Ouais.
Et ça coûte 100 balles un resto avec mes parents, globalement. Bon, il faut que je trouve un moyen d'avoir 100 balles de plus chaque mois pour pouvoir payer ça. Tu vois, parce que si tu payes si quand t'es en mode survie, tu trouves l'argent plus facilement, en gros. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo, ouais.
Bien sûr, ça, t'avais parlé aussi d'une anecdote de ton pote Kélian qui avait dû trouver vite pour faire
un... 800 balles, exactement. Ouais. Enfin, il les a trouvés, les 800 balles, t'inquiète pas.
Ouais. Pour un loyer, je crois que c'était ça.
Ouais, exactement.
Ok. Alors, est-ce que j'ai une... j'aurais un dernier petit point à aborder au niveau de tout ce qui est relation, équilibre mental, etc. C'est au niveau tout ce qui est addiction, pornographie, nofap. Est-ce que dans ta jeunesse ou plus jeune, du coup, ou alors même actuellement, t'as déjà eu des soucis avec tout ça, ou t'as jamais été vraiment addict à ce genre de choses, tu vois ?
J'ai eu des périodes où j'en regardais tous les jours. genre au lycée et tout. Il y a eu des périodes, mais c'était pas genre. Ça a jamais été genre pendant un an, j'en ai regardé tous les jours. Tu vois, il n'y a jamais eu ça, ou genre tous les deux jours non plus. Il y a eu des périodes où j'en regardais beaucoup, genre ça m'est déjà arrivé au lycée, même à la fac, de faire des deux semaines où genre je regardais tous les jours. Mais deux semaines plus tard, ça pouvait m'arriver de faire une semaine entière où je regardais pas. Donc c'était pas une addiction. Enfin, en tout cas, si c'était une addiction, elle était beaucoup plus facile à retirer quand j'ai découvert toute cette niche, Hamza, tout ça. Donc quand j'ai découvert tout ça, c'était beaucoup plus facile d'enlever le porno que ça pourrait l'être pour n'importe quel autre mec. Tu vois, genre, tu sais, Hamza, il raconte dans ses vidéos, je me branlais. Ouais. Et quand j'avais fini, je me rebranlais. Et ma meuf se réveillait, et j'allais dans une pièce, et je me rebranlais une troisième fois. C'était ma morning routine. Ça, c'est typiquement, je me suis jamais branlé plusieurs fois d'affilée, tu vois.
Tu l'as jamais fait, genre, deux, trois fois dans une journée?
Ah, si, j'ai déjà fait deux fois dans une journée, mais je l'ai jamais fait, genre, plusieurs fois d'affilée. Et même, tu sais, les deux fois dans une journée, c'était vraiment rare, tu vois. C'était genre vraiment quand j'étais dans les pires périodes du collège, du lycée, dans ces moments-là. Mais je pense que honnêtement, même en disant ça, je pense que honnêtement, je suis. Enfin là, je regarde plus. Là, je suis vraiment en mode plus de porno. Je regarde pas de porno. Mais même à cette époque-là, je pense que j'étais dans le top 10% des hommes vis-à-vis de cette addiction. C'est-à-dire que je pense que tout le monde c'était pire. Si tu veux mon avis.
Ok.
Mais les gens disent pas la vérité, quoi.
Bien sûr. Bah ça c'est un truc. Peut-être qu'un jour quand j'aurai les couilles, j'en ferai une vidéo dédiée. Mais moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. À mort, c'était compliqué. C'est un truc qui est ultra addictif, tu vois. Et la seule solution. Ouais. En vrai, j'en regardais tous les jours. Je pense que c'est déjà arrivé. En fait, le problème, je pense, c'est que j'ai commencé tôt à mort. C'est un truc qui touche beaucoup de jeunes garçons. Je pense que la première fois que j'ai regardé, c'était peut-être à 8-9 ans, un truc comme ça. Donc oui, c'est extrêmement tôt. Mais la seule solution que j'ai trouvée à l'heure actuelle pour pas replonger, c'est en fait d'avoir des relations dans la vraie vie, tu vois. C'est pour ça que je n'arrive pas à, et d'un côté, ne pas avoir de contact féminin pour me focus sur mes projets, mais d'un autre côté, ne pas aller sans porno. Tu vois, c'est que si je vois pas de meuf et que je bosse chez moi, mais il y a aucun univers où en tout cas en ce moment, où je vais arriver à me branler normal une fois par semaine sur mon imagination, tu vois. Et ça, c'est fort, tu vois. Je sais que tu arrives et.
Ouais, je suis plus en mode porno du tout. Je suis pas en mode nofap non plus, tu vois. Genre.
D'ailleurs, le nofap, je pense pas du tout que ce soit bénéfique. Je
pense que il y a des bienfaits, il y a des trucs mauvais, mais il faut vraiment se pencher sur les études et tout.
Parce que surtout au niveau de la santé mentale, le fait de compter les jours, tout ça, c'est assez.
Ouais, non, ça bien sûr. Ouais. Évidemment, mais donc je suis pas en mode, enfin, ne pas se branler.
Ouais.
Je suis en mode pas trop le faire, évidemment.
Ouais.
Et je suis en mode sans porno, ça, c'est sûr.
Ok. C'était très cool. C'était un truc aussi, grosse dissonance par rapport à ça ces dernières semaines, mois peut-être. C'est que toutes les actions qu'on fait dans nos vies, en tout cas la majorité, sont optimisées pour qu'on ait une testo de bâtard et que, on ait de la testo qui coule à flot dans nos sang. Mais d'un autre côté, les mêmes youtubeurs qui vont nous dire d'avoir la meilleure testo possible vont nous dire te branle pas du tout ou alors pas souvent. Mais c'est compliqué. Enfin, je veux dire, comment je peux avoir une testostérone plus élevé que 80. Ah. Comment je peux avoir une testo
et donc
un sex drive plus élevé que 95% des gens de mon âge, mais du coup comprimer mes envies toute la semaine, parce que grosse testo égale libido énorme. Donc c'est encore un truc sur lequel je me penche sur la question.
Oui, c'est complètement vrai.
Ouais.
C'est tout à fait vrai. Bah, je pense que la réponse elle est évidente. C'est comme je dis, c'est-à-dire pas trop. C'est dans la modération, quoi. Effectivement, je pense que jamais ça ne marche pas. Enfin, je pense que les mecs qui te disent « Ouais, je suis en nofap depuis 300 jours », peut-être. Bon, écoute, tant mieux pour toi, mais maintenant, la différence entre toi et un mec qui se branle une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, c'est pas si différent, tu vois. Il a pas une santé mentale non plus dégueulasse, le gars, tu vois.
Bien sûr. Et puis même, réflexion que j'avais, c'est que pas trop, même jamais avec du porno, c'est évident, mais il n'y a aucun mec sur Terre qui a culpabilisé, je pense, de le faire trop avec une vraie nana qui kiffe, tu vois. Donc, c'est un truc sur lequel je...
La vérité,
ouais.
Que moi, si.
Ah ouais?
Moi, si. Donc, je peux comprendre en fait. C'est moi, je. Mais c'est justement parce que je regarde pas de porno en fait. Du coup, du coup, pour moi, je veux dire, une éjaculation, c'est une éjaculation en fait. Et je le prends pas pareil, mais presque tout autant comme si c'était de la. Tu sais, de la instant gratification, tout ça. Je le prends vraiment comme ça et ça peut vraiment me mettre mal si je le fais trop. Pour de vrai. Donc,
Ok.
moi, si.
Ok, c'est là, je te jure, c'est une, voire même sûrement la première
Mais
fois
c'est
qu'on
fou
dit
ce
ça.
podcast, je raconte des trucs dingues dans ce podcast. J'espère qu'il fera pas trop de vues.
On me l'a déjà dit, t'as vu, tu t'es même pas forcé, c'est venu tout seul. Tous les invités qui sont
Ouais,
venus ici disent des trucs qu'ils ne pensaient pas dire avant d'appuyer sur le bouton record. Donc,
tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
putain, bah, tu vois, là c'est le moment où je devrais finir le podcast, mais j'ai pas envie qu'on finisse sur une éjaculation, tu vois.
T'inquiète, tu peux.
Et ben
Juste
voilà.
un autre thème, un autre truc, je sais pas.
Alors, je vais regarder dans. Oui, voilà, bah, on va finir sur un truc un peu plus soft, hein, histoire de pas finir sur ça. Est-ce que, pour ceux qui sont restés jusque-là, d'ailleurs, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Est-ce que tu aurais des sources, des livres? C'est une question un peu bateau dans beaucoup de podcasts que les gens posent aux invités, mais qu'est-ce que tu conseillerais comme source d'information, de formation, des youtubeurs, des livres qui t'ont parlé énormément? Je sais que t'as pas mal changé de point de vue par rapport à la lecture entre le début de ta chaîne et maintenant sur
Ouais.
l'influence que ça avait. D'ailleurs, je suis totalement d'accord. Pour moi, la réponse se trouve dans un équilibre entre branlette mentale, que lire et action. Ça se trouve dans
Ouais,
les deux, tu vois.
exactement.
Donc voilà, est-ce que tu aurais des sources, des chaînes que tu kiffes à recommander?
Hamza, mais Hamza aujourd'hui, je parle.
Ouais.
Mais bon, ça, tu sais, j'en ai tellement parlé sur ma chaîne que je pense que j'ai ramené plein de Français chez Hamza, pour de vrai. Il y a plein de gens qui ont découvert Hamza grâce à ma chaîne. Mais Hamza, les vidéos actuelles qu'il fait,
Ouais.
je dirais. Et niveau livre, j'aime bien les trucs qui motivent plus qui enseignent, c'est-à-dire Can't Hurt Me de David Goggins.
Dès qu'un ouais.
Et. Non, enfin ouais, Dale Carnegie, si, mais c'est pas ce que je vais préférer. Je vais vraiment préférer la motivation plus que l'éducatif. Donc, David Goggins. Can't Hurt Me. Il a sorti un nouveau bouquin aussi, il faut que je le lise. Et Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone, qu'il faut écouter les deux en audio. Il faut vraiment écouter les deux en audio.
Oui, c'était Grant Cardone, donc je voulais lire pas
Ah,
Decalogue.
ok.
C'était Grant Cardone. Ok,
Ouais.
mais et ben ça, ben, petite parenthèse avant de finir, c'est quand même un truc qui m'avait étonné, tu vois, parce que du point de vue, ben, tu vois, je te connais via les vidéos et du coup, je sais que tout ce qui est différer la gratification, etc., ça fait vraiment partie de ton identité de marque. Mais d'un autre côté, le fait que tu recommandes la motivation, est-ce que la
Ouais.
motivation, ce serait pas finalement de la gratification instantanée au final, puisque tu
Si, un
hype,
peu,
mais c'est
mais
cool.
bon, c'est si après tu fais des pompes, pourquoi pas, tu vois.
Oui, non, bien sûr. Bien sûr,
C'est toujours mieux la discipline, hein, c'est sûr, mais bon, si t'as moyen d'être motivé.
Ah bah c'est sûr qu'à choisir, si je dois faire une tâche sur l'instant T, je préfère être motivé que discipliné. Je vais être plus content de le faire, ça c'est sûr et
Ouais, c'est
certain.
sûr, c'est sûr.
Sur ça, non. Bah je pense que on a parlé de plein de trucs très intéressants et j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais te poser comme question, etc.
Et bah parfait.
Mec, je le redis encore une fois, merci beaucoup
Pas de souci, merci à
enfin,
toi de m'avoir invité.
c'était très cool, je pense qu'il y aura beaucoup de valeur à tirer de ce podcast.
J'espère.
Et voilà, merci à toi. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes de streaming, à liker la vidéo, vous connaissez le topo. Et les réseaux de Loan seront évidemment dans la description du podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes.
Nickel.
Et bah salut!
Ciao.